Europe 1 Matin.
Bruce Toussaint.
Très bel hommage ce matin de Paris Match à Pierre Mondy. L'hebdo consacre 18 pages à l'acteur qui s'est éteint le week-end dernier à l'âge de 87 ans. C'est très émouvant parce qu'on y retrouve un homme très attachant et pas seulement pour son rôle dans la fameuse 7e compagnie. Je vous conseille notamment une photo magnifique, je l'ai sous les yeux, regardez Julie, réunissant Philippe Noiret, Guy Bedos, Claude Rich, Jacques Balutin, Michel Lonsdale, Christian Marin et Pierre Mondy en 1964 sur le tournage du film Les Copains.
C'est le temps de l'amour, le temps des copains et de l'aventure.
Le temps des copains et de l'aventure, les obsèques de Pierre Mondy auront lieu cet après-midi à Paris. Toujours dans Paris Match, décidément, les confessions de l'anti-héros. Alors attendez, anti-héros, je l'écris A-Y-R-A-U-L-T. Martine Aubry se dévoile après 4 ans à la tête du Parti Socialiste. Et alors c'est vrai qu'elle est aux antipodes du Premier ministre. Plus chaleureuse, plus simple, plus cash. Il y a une petite phrase dans l'interview qui est assez savoureuse et qui, à mon avis, va faire parler. Écoutez bien, Julie. Quand on stresse, dit Martine Aubry, soit on prend des médicaments, soit on compense. Moi, j'ai décidé de manger pour tenir le coup et j'ai pris 12 kilos. Voilà la méthode Aubry.
On est foutu, on mange trop. On est foutu, on mange trop. On est foutu, on mange trop.
Elle est pas foutue du tout, bien au contraire. Elle assume, Martine Aubry, ses rondeurs, son physique et même ses ambitions. Mon objectif dans la vie n'est pas d'être Premier ministre, mais, dit-elle.
Sait-on jamais.
Si un jour, c'est là où je me sens la plus utile, pourquoi pas? Ça aussi, ça va faire parler aujourd'hui.
Oui.
À propos de régime, vous savez que depuis quelques mois, la méthode du camp est très contestée. Ça continue à 7h15. Dans le plus d'Europe 1 Matin, nous recevrons le docteur Zermati qui publie un brûlot anti-du camp. Juste un mot pour vous dire que ce soir, c'est la première de Sister Act. La comédie musicale tirée du célèbre film avec Whoopi Goldberg débarque à Paris, Théâtre Mogador. C'est avec Europe 1. Émission spéciale ce soir à partir de 20h. Et nous, on est ensemble jusqu'à 9h sur Europe 1.
Et tout de suite, la météo avec Air France.
La France métropolitaine est à partir de 50€ TTC. Elle est simple avec Air France. Tarif offre de service soumis à conditions.
Bonjour ma sœur, Valérie Darmon.
Bonjour mon frère.
Notre sister act de la météo.
Bonjour sœur Julie, bonjour à tous. Bonjour.
Du soleil mais de la fraîcheur aujourd'hui.
Absolument Bruce, côté ciel, pas d'inquiétude. La journée s'annonce voilée par endroits, notamment sur une grosse moitié nord, mais avec une impression de beau temps quand même, hein, qui persiste et qui s'impose. Dès ce matin, le ciel sera totalement dégagé dans le sud. Mais l'élément marquant, c'est le froid. Vous avez remarqué d'ailleurs, j'ai perdu ma voix, j'ai pris le choc thermique de plein fouet. On savait que jeudi serait la journée la plus froide de la semaine et donc c'est confirmé. Nous avons à l'heure qu'il est 0 à Verdun, 1 à Metz, 2 à Nancy, 3 à Strasbourg et à Château-Chinon, 4 à Rambouillet, à Rennes, à Mulhouse, 5 à Brest, 6 en Touraine, 8 seulement à Paris, 9 à Lyon, à Bordeaux et à Nantes. Dans le sud, évidemment, c'est mieux. Et cet après-midi, les maximales seront quand même en hausse. On va gagner 1 à 3 degrés. On va en reparler.
Merci Valérie, à tout à l'heure. Europe 1, c'est le matin, c'est Bruce Toussaint. Bon réveil et bon carillon.
Europe 1, il est 7h.
Europe 1 Matin,
7h, 9h,
Bruce Toussaint.
Le journal de 7h, Michel Grossiure, bonjour.
Bonjour Bruce, bonjour à tous.
La France en garde contre la menace islamiste.
Surveillance accrue des cités et des mosquées, fermeture préventive des ambassades et des écoles françaises dans une vingtaine de pays arabes. La crainte de l'onde de choc des nouvelles caricatures de Mahomet, nous serons en ligne de Tunis dès le début de ce journal. Enseigner certaines matières se révèle de plus en plus difficile. Des élèves se rebiffent en effet au nom de l'islam et le ministère de l'Éducation nationale donne pour la première fois des consignes révélations à suivre. Al-Qaïda menace d'exécuter les 4 otages français enlevés au Niger en reprochant à la France de vouloir envahir le Nord Mali. Les risques des OGM pour la première fois étudiés avec un recul scientifique de 3 années et ça fait froid dans le dos. Lille en mauvaise posture dès son entrée dans la compétition de la Ligue des Champions. Le LOSC a reçu une claque hier soir du Baté Borisov 3-1. Enfin, Sister Act, la comédie musicale débarque à Paris. Des nonnes en folie, mais n'y voyez aucun blasphème.
À 7h10, le Zoom Echo d'Europe 1 Matin. L'Europe du Sud ne perd pas le Nord. La Grèce, l'Espagne, l'Italie et le Portugal vont mieux grâce à leurs exportations. C'est une bonne nouvelle selon Axel de Tarlé. À 7h20, vue du net, les OGM affolent le web. Guy Birenbaum a relevé pour nous les inquiétudes des internautes après les révélations du Nouvel Obs.
Europe 1 Matin.
La France sur le qui-vive.
Des mesures de sécurité sont prises sur le territoire national, mais pas seulement. La publication de nouvelles caricatures de Mahomet par Charlie Hebdo amène les autorités à prendre des précautions dans une vingtaine de pays étrangers musulmans. C'est le cas en Tunisie où se trouve Didier François pour Europe 1. Bonjour Didier.
Bonjour.
Et ce matin, vous pouvez témoigner des fermetures qui ont été décidées.
Oui, absolument. Ici, à Tunis, très concrètement, l'école et le lycée français sont fermés. Ils le sont, en fait, depuis hier après-midi et ils le resteront au moins jusqu'à lundi, le temps que les choses se calment un peu. En attendant, tous les élèves ont été renvoyés dans leur famille. Ça concerne un petit millier d'enfants avec des consignes d'extrême prudence. Il leur a été demandé de rester chez eux autant que possible et surtout d'éviter dans les prochains jours les lieux de possibles rassemblements ou manifestations, par exemple devant les mosquées du centre-ville. C'est d'ailleurs une consigne qui a été donnée à l'ensemble de la communauté française de Tunisie, et c'est surtout valable pour vendredi, le jour de la grande prière dans les pays musulmans, qui pourrait bien se transformer en journée de protestation. C'est exactement ce qui s'était passé la semaine dernière, avec des manifestations très violentes contre l'ambassade des États-Unis et contre l'école américaine, qui avait été prise d'assaut par des petits groupes extrémistes disant vouloir dénoncer une vidéo anti-musulmane. Donc, pour éviter ce genre de débordement, et l'ambassade et le consulat de France seront fermés toute la journée de vendredi. Paris a d'ailleurs demandé aux autorités tunisiennes de renforcer la sécurité autour de ces locaux diplomatiques, ce qu'elles ont fait très volontiers. Mais reste qu'ici, lorsqu'on discute avec les Français qui vivent en Tunisie, on sent tout de même une certaine inquiétude et surtout une vraie colère contre Charlie Hebdo. Les caricatures sont considérées ici comme une provocation totalement inutile, une façon assez malhabile de jeter de l'huile sur le feu et de faire en fait le jeu des groupuscules extrémistes religieux.
Merci Didier François. En France, l'interdiction des rassemblements est la règle. Donc, Paris, Lyon, Lille, Toulouse, Marseille, la police en fait évalue les risques de contestation. Écoutons Farouk, qui a participé samedi dernier au rassemblement devant l'ambassade des États-Unis.
Je n'y serai pas, je suis un musulman barbu, je n'y serai pas. Parce que je respecte les lois ici de la République. On a des recours, déposer des plaintes, rester dans le cadre de la loi, surtout en France. Ensuite, ne pas importer les événements qui se passent dans les pays arabo-musulmans, ne pas les importer ici en France et ne pas réagir de la sorte.
Propos recueillis pour Europe 1 par William Galibert. Bien sûr, la publication des nouvelles caricatures par Charlie Hebdo n'empêche nullement dans notre pays toute pratique religieuse. Ceux qui s'offusquent n'ont rien dit des nouvelles menaces de mort pesant sur Salman Rushdie. Une fondation iranienne vient en effet d'augmenter de 500 000 dollars la prime pour tuer l'écrivain.
Les convictions religieuses des élèves et les tensions au Proche-Orient pèsent sur le climat dans les cours de classe.
Oui, les professeurs de toute matière, des sciences au sport, en passant par l'histoire, sont souvent confrontés à des réactions hostiles d'élèves et ils doivent parfois composer avec le principe de laïcité. Et l'on découvre ce matin avec vous, Fabien Cazot, que des consignes officielles encadrent, au nom de la prudence, certains chapitres des classes terminales.
Oui, il y en a un particulièrement sensible en histoire. C'est la première fois qu'un chapitre sera exclusivement consacré cette année au conflit du Proche et Moyen-Orient. Le ministère recommande d'y aller avec des pincettes. Si on passe des films en classe, prière de faire dans le consensuel. Exemple, le film d'animation Persepolis. Bien s'intéresser à tout le contexte depuis 1918 et pas seulement au conflit israélo-palestinien. Pas sûr que tout ça suffise à calmer les esprits, d'après ce prof de Seine-Saint-Denis, Yanis Röder.
Dès qu'il sera question du Proche-Orient, nécessairement dans certaines classes, vous aurez des réactions violentes, vous aurez des partis pris. On pourra passer tous les gentils films qu'on veut. L'actualité étant ce qu'elle est, et la passion étant ce qu'elle est dans ce Proche-Orient en feu, nos élèves ne sont pas épargnés par cela et ils ne nous épargneront pas.
Face au risque de chahut généralisé, l'association des profs d'histoire se saisit de la question. Selon son président Hubert Tison, il faudra choisir avec grand soin les mots employés devant les élèves.
Le professeur, il doit garder une grande neutralité, mais en même temps être absolument sûr de son savoir. Par exemple, quand on dit qu'il existe des Arabes chrétiens, il y a toujours des interpellations d'élèves. C'est comme quand on dit que les Turcs ne sont pas des Arabes, c'est la même chose.
Un mois sera consacré à ce chapitre dans les classes de terminale L et ES.
Merci beaucoup Fabien. Bien sûr, les professeurs, on l'a compris, se sentent démunis entre les consignes et les pressions de plus en plus fortes de certains de leurs élèves.
Europe 1, il est 7h06, Bruce Toussaint.
Al-Qaïda au Maghreb islamique menace de tuer les 4 otages français enlevés au Niger.
Oui, le message est parvenu hier soir et il est adressé aux familles. Acmi reproche à Paris d'avoir appelé à envahir le Nord Mali, assurant que cela risque d'aboutir à, je cite, davantage de malheurs pour la France. Le nord du Mali est occupé depuis plus de 5 mois maintenant par différents groupes qui imposent la charia en multipliant les exactions.
Une étude sur les OGM qui inquiète.
Oui, vous verrez dans vos journaux ce matin des photos de ces rats de laboratoire totalement déformés par d'énormes tumeurs alimentées avec un maïs transgénique. Ils ont été victimes d'une hécatombe, selon le mot de l'auteur de cette étude, le professeur Serralini de Caen. La firme Monsanto réserve encore ses commentaires, mais Ève Roger, cette étude, menée d'ailleurs dans le plus grand secret, un peu à la manière de la CIA, s'appuie sur un recul de 3 ans. Quand les industriels se contentent pour rassurer d'un recul de 3 mois seulement.
Oui, Michel, c'est la durée même de cette étude qui fait toute sa valeur. Bien sûr, on avait déjà testé les effets de certains OGM sur des rats, mais sur des périodes beaucoup plus courtes, 3 mois au maximum, c'était une dizaine d'années. Et en plus, ceux qui ont mené ces études, ce sont les fabricants d'OGM eux-mêmes. Et ils ont été bien contents du résultat, puisqu'au bout de 3 mois, les rats se portaient comme un charme. Là, ce sont des chercheurs indépendants qui sont à l'origine de cette expérimentation, ceux qui ont payé les 3 millions d'euros, ce sont des fondations et des entreprises du secteur alimentaire dont aucune ne fabrique des OGM. Et puis vous l'avez dit, les 200 rats ont ingurgité des croquettes de maïs OGM pendant 24 mois, c'est-à-dire 8 fois plus longtemps que les études précédentes. Et on connaît maintenant le résultat, des tumeurs grosses comme des balles de ping-pong et une mortalité précoce. La plupart des cobayes ont perdu un tiers de durée de vie. Alors reste maintenant le plus important, Michel, que la communauté scientifique internationale valide les résultats de cette étude.
Et les ministres dès hier, les ministres concernés ont saisi l'Agence nationale de sécurité sanitaire pour validation. Une nouvelle polémique en vue sur des délocalisations après les centres d'appel des transports parisiens. Les activités informatiques de la SNCF seraient parties à l'étranger, une partie en tout cas en Tchéquie, en Pologne et en Espagne. La société nationale confirme dans le Parisien et dit souhaiter engager une réflexion désormais avec ses sous-traitants qui gèrent ces applications de billetterie. L'outre-mer devrait être épargné par le plafonnement des niches fiscales. Les investissements dans le logement ou dans des activités de service dans les départements d'outre-mer devraient échapper au coup de rabot. Pourtant, ces niches fiscales sont régulièrement dénoncées par la Cour des comptes, qui juge les dispositifs inefficaces et onéreux. 1 milliard d'euros par an en moins pour l'État avec ces dispositifs actuels.
Tous au couvent pour une soirée réjouissante.
Oui, c'est la première ce soir de Sister Act, la comédie musicale après le film. Le succès mondial arrive donc au théâtre Mogador avec Europe 1 et Thierry Geoffrotin s'est laissé emporter par les rythmes endiablés des nonnes.
D'abord, la musique irrésistible, digne des plus grandes comédies musicales de Broadway. L'énergie de la musique embrase la scène et accompagne l'histoire de Dolores Van Cartier. Pour échapper à des truands qui veulent sa peau, une chanteuse disco va se cacher dans un couvent. Évidemment, quand Dolores chante, ce ne sont pas des cantiques. Autour de Kania, une jeune Québécoise qui joue le rôle de Dolores, une quinzaine de nonnes qui ne demandent qu'à bouger, chanter, faire la fête. Véronique Bandelier met en scène Sister Act.
Le casting a duré longtemps parce qu'on a vraiment cherché des filles très différentes qui puissent se compléter à tous les niveaux, des âges, des voix, de la personnalité, du caractère. Donc il y a vraiment cette énergie de groupe qui est fantastique.
À partir de ce soir, les amateurs de comédie musicale et les autres ont rendez-vous à l'église Notre-Dame-des-Anges à Philadelphie, au théâtre Mogador à Paris.
Soirée spéciale donc, Sister Act, dès ce soir sur Europe 1, Bérangère Bonte et Nikos Aliagas dans une spéciale des clics et des claques en direct de Mogador.
Les Lillois ont reçu un coup de massue hier soir.
Oui, une bérésina à la sauce ch'ti, comme dit la Voix du Nord. Le LOSC a été écrasé par les Biélorusses de Baté Borisov, 3-1. Guillaume Garrigue, les joueurs sont partis sous les sifflets.
Tellement déçus par la prestation, il a fallu moins de 5 minutes pour que les 40 000 spectateurs évacuent le stade et la fête attendue a tourné au cauchemar. Les chants se sont transformés en bronca au moment du coup de sifflet final. Comme tétanisé par l'enjeu, Lille n'a jamais réussi à entrer dans la rencontre. 2 buts encaissés en 20 minutes, absent en défense, sans talent, en attaque. Le niveau affiché l'an dernier au moment du titre semble bien loin. Depuis le départ de son attaquant chéri Eden Hazard, parti cet été à Chelsea, Lille semble perdu et l'aventure en Ligue des Champions pourrait être de courte durée puisque hier soir, Lille s'est incliné face à la plus modeste équipe de son groupe.
Ah oui.
Autant dire que les nordistes sont en ballottage très défavorable.
Merci Guillaume. Dans le même groupe, Munich bat Valence 2-1. Dans les autres résultats, le tenant du titre Chelsea a été tenu en échec 2-2 face à la Juventus de Turin. L'équipe est absente des kiosques ce matin. Nouveau mouvement de grève après l'annonce d'un plan social. Sachez enfin que le footballeur du Barça, Gérard Piqué, et sa compagne, la chanteuse Shakira, sont heureux d'annoncer qu'ils vont avoir un enfant. Ils ont tweeté hier soir. Ah, elle va ralentir ses activités, mais lui, il continue de courir après le ballon.
Merci Michel Grossior. À suivre sur Europe 1, tiens, une bonne nouvelle. Les pays du Sud en Europe vont mieux et recommencent à exporter. Ce sera dans le Zoom Echo avec Axel de Tarry. Puis on en profite pour saluer tous ceux qui nous regardent ce matin. Car oui, depuis la rentrée, Europe 1, c'est aussi en vidéo, en intégralité, tous les matins de 7h à 9h. Bonjour à vous qui nous suivez sur Europe1.fr et à tout de suite.
Europe 1, 7h12.
Europe 1 matin, Bruce Toussaint.
Il est 7h13.
Visa Business, partenaire des petites entreprises qui avancent, vous présente le Zoom Echo.
Cet homme est-il normal ? Axel de Tarly, son hobby, suivre minute par minute le cours du Yen. Eh oui, puisqu'il présente le Zoom Echo chaque matin sur Europe 1. Bonjour Axel.
Bonjour Bruce.
Le Zoom Echo, c'est l'Europe du Sud qui redevient plus compétitive. Ses exportations repartent. C'est la preuve que les efforts consentis commencent à payer.
Oui, et c'est très important parce qu'on parle là de ce qui est au cœur de la crise de l'euro. Quel était le problème ? Eh bien, les pays du Sud, Portugal, Espagne, Italie, Grèce, ne sont plus compétitifs. Ils n'ont plus d'industrie, ils ne savent plus rien fabriquer et n'ont plus rien à vendre. Je caricature, hein. Mais ils sont condamnés, disait-on, à vivre au crochet des pays du Nord. Donc, pour retrouver leur compétitivité, on a demandé à ces pays de faire de lourds efforts, de baisser les salaires, d'être plus flexibles, plus souples. Eh bien, apparemment, ça commence à payer. Eurostat vient de publier une série de chiffres très encourageantes. Italie, Grèce, Espagne, Portugal, partout, les exportations repartent. Italie, plus 4% sur les 6 premiers mois de l'année. Grèce, plus 15%. Espagne, plus 1%. Portugal, plus 9%. Ces pays exportent à nouveau. Et vu la récession, ils achètent moins à l'étranger, ils importent moins, si bien que les déficits commerciaux sont en train de se résorber. Il a même totalement disparu en Italie. Bref, le grand déséquilibre nord-sud avec le nord qui exporte et le sud qui importe, ce grand déséquilibre est en train de se résorber.
Et nous, on est où dans tout ça ? La situation de la France ?
Alors, notre situation, nous, elle n'a pas bougé. Notre déficit commercial est toujours le même. Ouais. C'est d'ailleurs le plus gros de la zone euro. 44 milliards d'euros au premier semestre. Et donc, on serait bien avisé de mettre en place, nous aussi, ces mesures de compétitivité qu'ont adoptées les pays du Sud.
Alors ça veut dire quoi ? Baisse des salaires ?
Ben oui, oui.
Plus de flexibilité ?
Oui, alors, plus de flexibilité, bah oui, bien sûr, mais c'est dans les tuyaux, figurez-vous, hein, même si le gouvernement, il n'utilise pas le mot flexibilité, on sait qu'il veut faire plus de souplesse.
Souplesse, voilà.
Et puis, la baisse des salaires, en fait, ce qu'il faut baisser avant tout, c'est le coût du travail, et ça aussi, c'est dans les tuyaux. On parle, on sait bien, de baisser les charges dans les entreprises, c'est le fameux choc de compétitivité, 50 milliards d'euros de charges en moins dans les entreprises. Eh bien, il faut le faire, ce choc de compétitivité, car l'exemple, l'Europe du Sud nous montre que ça marche, qu'on peut regagner en compétitivité assez vite, regagner des contrats à l'extérieur, et donc de l'emploi dans nos usines.
Le chiffre du jour, 630 euros.
Entre 15 et 24 ans, le budget vêtements pour une jeune fille s'élève en moyenne à 630 euros par an. C'est 622 euros pour les jeunes hommes, à comparer avec moins de 400 euros pour les adultes.
Un coup de chapeau.
La nouvelle Clio qui va sortir, la Clio 4, consomme 20% en moins, 4 litres 3 au 100. Mais le prix, lui, ne baisse pas, entre 13 et 19 000 euros.
Merci Axel.
C'était le Zoom Echo avec Visa Business, partenaire des petites entreprises qui avancent. Retrouvez conseils d'entrepreneurs et dossiers pratiques sur visa.fr.
Europe 1, 7h16. Europe 1 matin.
Bruce Toussaint.
Merci d'être avec nous. Les titres d'Europe 1 matin. Mesures de sécurité en France et dans une vingtaine de pays musulmans où les ambassades et les écoles françaises vont fermer. Conséquence du climat créé par les caricatures dans le magazine Charlie Hebdo. Al-Qaïda au Maghreb islamique menace de mort les otages français détenus au Mali. ACMI accuse la France de préparer une invasion du nord du Mali. Le danger des OGM, une étude de choc sur l'apparition de tumeurs sur des rats de laboratoire, relance le débat. Et puis soirée de cauchemar pour Lille en Ligue des Champions, c'est du football. Le LOSC battu à domicile 3-1 par le club biélorusse du pâté Borisov.
Bruce Toussaint.
Europe 1 matin.
À bas du camp, ce régime à base de protéines inventé par le nutritionniste Pierre Ducamp est attaqué de toutes parts
Et maintenant, par les docteurs Jean-Philippe Zermati et Gérard Apfeldorfer, dans ce livre que j'ai sous les yeux, « Mensonges, régime du camp et baliverne », ces deux médecins disent récupérer à la petite cuillère les adeptes de ce régime qui a eu un immense succès, qui continue d'ailleurs à avoir un grand succès. C'est le plus d'Europe 1 Matin avec vous, Jean-Philippe Zermati. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes médecin nutritionniste, psychothérapeute, vous êtes le co-auteur de ce livre qui sort aujourd'hui chez Odile Jacob. Est-ce que vous n'avez pas un peu l'impression de tirer sur une ambulance ?
C'est une ambulance qui se porte encore très bien. Il y a quand même plusieurs millions de personnes qui sont encore en train de pratiquer le régime. Oui.
Ouais.
Aujourd'hui.
Je crois qu'en 2010, il y avait 2 millions. Et vous pensez qu'en 2012, il y a encore autant de gens qui suivent ce régime ?
Alors, autant de gens qui l'ont fait ou qui continuent à en subir les conséquences et que nous, on est en train de récupérer.
Quelles conséquences, justement, sur ce régime, selon vous ?
Alors, écoutez, je pense que le plus simple, c'est de vous raconter un petit peu comment les choses se passent, de vous donner un exemple. En 2011, précisément, je recevais une patiente qui suivait le régime du camp. Et qui me racontait que dans son entreprise, tout le monde était au régime du camp. Donc quand elle arrivait au self de l'entreprise, si elle arrivait une demi-heure après l'ouverture, il n'y avait plus le moindre morceau de jambon, de fromage blanc, de bâtonnet de surimi à se mettre sous la dent. Et tout ça était sur ce qu'elle appelait les plateaux du camp. Les gens circulaient avec leurs plateaux du camp. Et puis en septembre, l'entreprise annonce une restructuration, comme beaucoup d'autres en ce moment. Donc stress dans l'entreprise, les gens inquiets de leur avenir, personne ne sait très bien ce qui va devenir. Et au mois de janvier, quand elle se rend au self de l'entreprise, une demi-heure après l'ouverture, là elle s'aperçoit qu'il n'y a carrément plus rien à manger. Donc elle va voir le cuisinier et elle dit « Mais écoutez, pourquoi est-ce que vous achetez moins ? Ou il y a des restrictions sur le budget restauration, que se passe-t-il ? » Et le cuisinier lui dit « Mais madame, non, pas du tout. C'est qu'ils se sont mis à manger 4 fois plus. » Ça, c'est l'effet du camp.
Vous affirmez que ce régime produit forcément un contre-effet néfaste.
Au bout du compte, les gens dans ce régime commencent par perdre du poids et en reprendre plus. Ils finissent par ne plus savoir quoi manger et ils mangent beaucoup plus quand ils sortent du régime. Ils ont ce qu'on appelle des effets compulsifs.
Pourquoi ? Est-ce que c'est la nature ? Est-ce que c'est lié aux protéines qui sont...
Non, c'est lié à l'effet restriction, c'est-à-dire que les gens sont privés pendant plusieurs mois de toutes sortes d'aliments, et puis dès la moindre contrariété, dès le moindre stress, ils se précipitent sur ces aliments et ils ne savent plus en contrôler la consommation. Et puis il y a un dernier point sur le régime du camp qui est rarement évoqué, c'est c'est la philosophie qui se cache derrière ce régime. Le docteur Ducamp est quelqu'un qui considère les gros comme des personnes faibles, immatures, sans aucune volonté, qui ne pourront maigrir qu'à partir du moment où quelqu'un viendra les aider et les soutenir grâce à une volonté et une autorité supérieure à la leur.
L'idée d'un gourou, vous voulez dire, en quelque sorte ?
Mais c'est quelqu'un qui dit textuellement qu'il faut à ces gens un décideur qui marche devant eux. Il considère que si les gens pour que les gens maigrissent, ils ont besoin d'eux, mais que s'ils regrossissent, ce sera par leur faute. Donc ces gens sortent de ce régime de manière complètement détruite, anéantie à tout point de vue, anéantie dans leur poids, anéantie dans leur manière de manger et anéantie psychologiquement.
Mensonges, régime du camp et baliverne chez Odile Jacob, il va vous faire un procès.
Oui, c'est ce que tout le monde nous raconte.
Ouais.
Il semble faire très peur à tout le monde. Ça ne va pas sembler une raison pour ne pas écrire un livre.
Pas à vous.
Peut-être qu'à nous, mais ça, je trouve que ça n'est toujours pas une raison pour ne pas écrire un livre.
Merci beaucoup, Jean-Philippe Zermati, invité d'Europe 1 Matin. Dans un instant, vue du net, Guy Birenbaum, on va revenir sur le scandale des OGM avec ses révélations, ses photos. C'est vrai, Michel Grossiore en parlait tout à l'heure de rats déformés. On en parle énormément sur le web. À tout de suite.
Europe 1, 7h21.
Le club Europe 1.
Europe 1.
50 ans avant Jésus-Christ, après avoir conquis la Gaule, l'Égypte et l'Hispanie, César porte le nom de Rome jusqu'à cette île appelée Britannia. Incroyable.
Vos deux irréductibles gaulois préférés sont de retour au cinéma le 17 octobre dans Astérix et Obélix au service de Sa Majesté. Un film européen réalisé par Laurent Tirard avec Gérard Depardieu, Édouard Baird, Guillaume Gallienne et Valérie Lemercier.
Obélix ! Oh, chouette, on va aller en Bretagne, ils ont des romains tout neufs là-bas.
Si vous êtes membre du Club Europe 1, vous pouvez gagner des places pour assister à l'avant-première officielle qui aura lieu à Paris le 30 septembre en présence de l'équipe du film. Pour tenter votre chance, vous vous inscrivez sur club.europe1.fr. Europe 1, 7h24.
Europe 1 matin.
Bruce Toussaint.
Il mange des puces électroniques au petit déjeuner. Voici Guy Birenbaum pour Vue du Net sur Europe 1. Bonjour mon cher Guy.
Bonjour tout le monde.
Alors on va revenir sur cette étude qui fait la une du Parisien, la une du Nouvel Observateur aussi, puisque c'est ce journal, cet hebdomadaire qui révèle ce scandale. Une étude sur le maïs génétiquement modifié de la très sérieuse revue américaine Food and Chemical Toxicology et qui jette un énorme froid sur le web.
Vous connaissez l'adage, Bruce, quand le sage montre la lune, l'idiot regarde le doigt. Alors hier, j'ai fait partie des nombreux internautes qui ont passé la journée à discuter des caricatures de Charlie Hebdo. J'aurais mieux fait de rejoindre tous ceux qui se sont jetés sur le site du Nouvel Obs pour lire l'étude menée par l'équipe du français Gilles-Éric Serralini dont parlait Ève Roger. Étude menée sur 200 rats qui révèle la toxicité très inquiétante des maïs OGM NK603 de la firme Monsanto.
Et les photos incroyables de ces rats qui auraient été rendus difformes par ces OGM qui, et ça a donc déjà fait le tour du web.
Et voilà ces photos de rats, photos très anxiogènes, ils sont bourrés de tumeurs gigantesques, de pathologies lourdes et elles ont fait l'effet d'un électrochoc provoquant des réactions parfois même de panique chez certains internautes.
Alors quelques exemples de réactions justement.
Donc nous le savons désormais, les OGM sont des poisons, attention à ce qu'il y a dans nos assiettes, c'est de la poudre aux yeux, les OGM ne réduisent pas la famine. OGM, mensonge, oui, les OGM sont des poisons. Je pourrais en citer comme ça des dizaines et des dizaines parce qu'il y a des milliers de réactions d'internautes anonymes qui ont l'impression, vous comprenez Bruce, comme souvent, qu'on leur a caché la vérité et c'est l'un des ressorts principaux du web.
Alors il y a aussi des commentaires de personnalités qui sont sensibles à ces questions sur les réseaux sociaux.
Et oui, comme toujours, c'est d'abord sur Twitter que les personnalités réagissent. Chantal Joanneau, heureusement que nous avons résisté, il faut prendre ces alertes au sérieux. Corinne Lepage, plus personne ne pourra dire qu'il ne savait pas. Ou José Bové, bien sûr, je demande solennellement l'arrêt immédiat des OGM à la culture et à l'importation. Il y en a des dizaines comme ça. À noter que les défenseurs du truc sont plutôt discrets pour le moment.
Oui, on les entend pas énormément.
Alors le 26 septembre, ça va continuer parce qu'il y a le livre de Monsieur Serralini qui sort, Tous Cobayes, mais aussi un film de Jean-Paul Jaud qui porte le même titre. On y verra les images de ces rats qu'on a vues là en photo étouffant dans leur tumeur. Ouais. Des images évidemment brusques que le web va récupérer, propager, diffuser, commenter. Et dans les jours et les semaines qui viennent, la firme Monsanto et les OGM vont donc se retrouver dans la grande lessiveuse d'Internet. On peut en ressortir rincé et essoré.
Merci Guy Birenbaum.
Europe 1, 7h26.
Europe 1 matin.
Alors lui, il est garanti sans OGM. Hein. C'est Laurent Ruquier sur Europe 1.
Manuel Valls abandonne le projet de récépissé des contrôles d'identité. Qu'en pense l'équipe ? Dans quel cas cela pouvait être utile ?
Les retards au travail, c'est vrai, si on est arrêté et qu'on n'a rien fait, mais c'était juste un contrôle, faut bien avoir un truc au travail pour rien. Regardez, je me suis fait arrêter.
Christine, bravo.
Ouais, moi je suis d'accord, si on vous contrôle sans raison, tranquillement, quand vous êtes en train de vous balader avec vos potes, si c'est un délit de sale gueule, oui. Et maintenant, effectivement, si vous vendez du crack ou que vous êtes en train de...
Ah là, c'est une amende que t'as, c'est un reste.
Non, mais je veux dire, tu vois...
Mais tu peux montrer l'amende aussi. T'arrives au boulot, tu dis, regardez, j'ai pris une amende. Je vendais du shit, je peux pas être partout, hein. Je suis arrivé un peu en retard à l'école, bon.
Ils ont qu'à les taguer d'un coup de peinture rouge. Comme ça, ça se voit de loin. Voilà. Si là, il a été repeint, on peut le laisser passer. C'est ça, quoi. Et puis, c'est moins douloureux que de couper une oreille ou un truc comme ça.
Laurent Ruquier, que vous retrouvez cet après-midi entre 15h30 et 18h sur Europe 1.
Dans deux minutes, tout juste, le journal d'Hélène Zellani sur Europe 1. Et ne manquez pas le retour de Valérie Trierweiler. Avec cette info Europe 1, la première dame de France pourrait revenir bientôt à la télévision. A tout de suite donc.
La météo maintenant avec Air France.
La navette Paris-Toulouse, c'est 27 vols aller-retour par jour avec Air France.
Valérie Darmon, vous n'échapperez pas au dicton du jour. Attention. En septembre, pluie fine est bonne pour la vigne.
Eh bien, vous avez tout faux. En tout cas, pour aujourd'hui. Non, il n'y a absolument pas de pluie.
Bah c'est bien.
Il fait beau. Il fait froid, mais il fait beau. Hein, grâce aux conditions anticycloniques quand même, hein, qui se réimposent avec du soleil partout. C'est un petit peu plus contrarié quand même sur le nord et le nord-ouest. Du Cotentin au Nord-Pas-de-Calais, la masse d'air est un petit peu plus humide tout de même, sans pluie. On retrouve ce matin quelques bandes de nuages bas, mais ils vont se morceler. Si vous habitez à Lille, à Paris, à Brest, à Nantes, à Strasbourg, à Reims, ou encore à Châteauroux, le ciel ciel va rester voilé toute la journée, mais le ressenti reste agréable avec une impression ensoleillée. Et puis si vous sortez de chez vous, ou si vous vous apprêtez à le faire en Alsace, dans les Ardennes, en Champagne, jusque sur la région parisienne, la campagne est blanche avec le retour quand même des premières gelées. Dans le sud, à partir du Bordelais jusque sur Rhône-Alpes, le ciel est déjà bien dégagé, excepté sur les Alpes-Maritimes et la Corse. Là, on a quelques résidus nuageux, mais sans conséquence. Alors aujourd'hui, par contre, il faut prévoir de s'effeuiller parce qu'il fait très frais. Alors ce matin, les valeurs oscillent entre 0 à Verdun et 18 à Nice. Et cet après-midi, elles vont grimper par rapport à hier. On va gagner 1 à 3 degrés avec 17 à 21 au nord et 19 à 27 au sud. Nous aurons par exemple 18 à Lille et à Paris, 20 à Auxerre, 21 à Lyon, 23 à La Rochelle, 25 à Périgueux, 27 à Angoulême et à Bordeaux, ainsi que 28 à Toulouse. Et demain, il y aura un petit peu de pluie. Vous n'avez pas complètement faux, allez.
Merci beaucoup, Valérie Darmon. Allez, le plus dur est fait. Debout et bonne journée sur Europe 1.
Il est 7h30.
Europe 1 matin.
7h, 9h.
Bruce Toussaint.
Le journal de 7h30. Hélène Zélani, bonjour.
Bonjour Bruce, bonjour à tous.
Regain d'inquiétude pour les 4 otages français enlevés au Niger.
Al-Qaïda au Maghreb islamique menace de les exécuter tout en proposant des négociations. Message adressé directement aux familles. Précision de Walid Berissoul dans un instant. Les caricatures de Mahomet dans Charlie Hebdo. Les musulmans de France se sentent blessés et refusent la stigmatisation. Reportage à suivre en Seine-Saint-Denis. Le comeback de Valérie Trierweiler. Information Europe 1 de Camille Anglade. Vous découvrirez que la première dame pourrait bien revenir sur le petit écran. Dans ce journal également, les PSA Aulnay à l'Elysée, ils ne veulent pas du plan social et demandent à François Hollande d'intervenir. Et puis Lille, qui rate son entrée dans la Ligue des Champions, défaite hier soir contre les Biélorusses du Baté Borisov.
À 7h40, l'édito politique d'Europe 1 matin, le duel Copé-Fillon cache un gros souci à l'UMP, le morcellement de la droite française, le point de vue tranchant de Caroline Roux sur Europe 1. Et puis à 7h50, nous retrouverons, à la bonne heure, l'humeur de Jérôme Commandeur.
Europe 1 matin.
Une nouvelle épée de Damoclès au-dessus de la tête des 4 otages français enlevés au Niger.
Ils sont retenus depuis maintenant 2 ans. Al-Qaïda au Maghreb islamique menace de tuer les 4 hommes. A priori, ça n'a rien à voir avec l'affaire des caricatures. Acmi reproche au gouvernement son soutien à une éventuelle intervention dans le nord du Mali, occupé par des islamistes depuis plusieurs mois. Le point important dans cette affaire, Walid Berissoul, c'est que ce message n'est pas adressé à l'État français, mais directement aux familles.
Oui, c'est un message qui, pour la première fois, s'adresse directement aux familles au-dessus du gouvernement français. C'est un texte en arabe publié sur un site mauritanien et qui a pu être authentifié. Je vous en lis un passage. C'est votre gouvernement qui a fermé la porte aux négociations. C'est lui qui continue de mettre en danger la vie de vos fils. Voilà les mots d'Al-Qaïda qui se dit prêt à négocier dans ce communiqué. Mais ce message se poursuit avec des menaces de mort sur les otages. Et là, les familles sont prises à témoin, car en réalité, c'est la politique française qui est visée. Le fait que Paris étudie la possibilité d'une intervention africaine pour reconquérir le nord du Mali. Pourquoi le nord du Mali? Car cette région est devenue en quelques mois un bastion d'Al-Qaïda au Maghreb islamique qui y fait régner sa loi, la charia. Alors dans le même temps, on a eu des nouvelles des otages. Une simple phrase du président du Burkina Faso, Blaise Compaoré, qui confirme avoir eu des preuves de vie, mais qui précise qu'aucune négociation n'est effectivement engagée pour le moment avec les ravisseurs d'Al-Qaïda au Maghreb islamique.
Walid Berissoul.
La polémique se poursuit autour des caricatures publiées par Charlie Hebdo, mais l'heure est surtout aux mesures de prévention.
Officiellement, le Quai d'Orsay n'a pas reçu de menaces visant nos ressortissants dans les pays musulmans. Malgré tout, des mesures de sécurité ont été prises. Fermeture demain de nos ambassades, consulats et écoles dans une vingtaine de pays. Dès aujourd'hui, les écoles françaises restent closes en Tunisie comme en Égypte. Des appels à manifester continue à circuler sur Internet pour samedi à Paris et dans plusieurs villes de province. La communauté musulmane, dans sa majorité, se dit blessée dans sa foi par les dessins de Charlie Hebdo. Écoutez le reportage de William Galibert pour Europe 1 en Seine-Saint-Denis.
Annelle est étudiante. En rentrant chez elle, elle a aperçu la une de Charlie Hebdo. En tant que musulmane, explique-t-elle, depuis quelque temps, je me sens montrée du doigt en permanence. Elle vit ses dessins comme une nouvelle provocation.
Ça devient tellement vexant qu'on a tendance à se renfermer sur soi-même. Et je sais qu'on n'est pas comme ça, je sais que c'est une communauté très ouverte. Moi, c'est simple, il suffit que je mette mon voile pour aller à la mosquée le vendredi. Je vais rencontrer des non-musulmans qui vont me dévisager. J'aimerais les prendre par la main, leur dire « bon, venez à la mosquée vendredi, venez voir comment c'est pas si malheureux que ça, en fin de compte, venez voir qu'on n'est pas des terroristes, on n'est pas des extrémistes. »
Méni, lui, ne fait même plus attention à ce qu'il considère comme des attaques contre sa foi. Pour ce grand-père, il faut savoir se montrer plus digne et plus malin que ceux qui dénigrent sa religion.
À ces gens qui ont fait ou ce film
ou ses actions, il faut transmettre aussi un bon message. L'islam, c'est la tolérance, c'est le bon comportement, c'est les bonnes actions. Notre religion interdit ça.
Mehdi ne craint qu'une chose, c'est que certains jeunes musulmans se laissent emporter par leur colère. Il ne faut surtout pas qu'il y ait de nouveaux débordements, confie-t-il. Ce serait donner raison à tous ceux qui nous critiquent.
Un reportage signé William Galibert. Deux associations musulmanes ont pour l'instant déposé plainte contre Charlie Hebdo, l'une pour provocation à la haine, l'autre pour diffamation et injure publique.
On en reparle avec Tariq Ramadan, professeur d'études islamiques contemporaines à l'université d'Oxford, qui est l'invité d'Europe 1 Matin à 7h45.
Et puis hier, un supermarché cachère a été attaqué à Sarcelles dans le Val d'Oise. Un engin explosif a fait un blessé léger. L'émotion est grande dans cette commune qui abrite une importante communauté juive. Le procureur se refuse à parler d'actes antisémites en rappelant qu'il n'y a pas de revendication. Manuel Valls, le ministre de l'Intérieur, s'est rendu sur les lieux pour appeler à l'apaisement.
Europe 1, 7h34, Bruce Toussaint.
Valérie Trier-Weller, le retour.
La compagne de François Hollande participe cet après-midi à une vente aux enchères au profit de France Liberté, la fondation lancée par Daniel Mitterrand. Une réapparition attendue, car ses sorties médiatiques sont devenues rares, surtout depuis son fameux tweet avant les vacances. Valérie Trier-Weller avait demandé du temps pour trouver sa place. Camille Anglade, est-ce que ça veut dire qu'elle compte prendre la relève des premières dames dans le caritatif ?
Ah non, Valérie Trier-Weller ne sera pas la nouvelle Danielle Mitterrand, encore moins Bernadette Chirac. La première dame veut rester journaliste. Et je peux vous révéler qu'elle est en négociation avec le groupe Canal+, depuis le début de l'été. Ce serait une émission de télévision culturelle, une bimestrielle, tous les deux mois. La compagne de François Hollande souhaite continuer à travailler. Un de ses proches me le confirme, elle n'a pas bougé d'un ongle là-dessus.
Et après un été plutôt en retrait, est-ce qu'on va la voir plus souvent aux côtés de François Hollande ?
Oui, le chef de l'État l'avait dit, la présence de Valérie Trier-Weller sera nécessaire à chaque fois que le protocole l'exigera. En fait, c'est un peu plus souple, à la demande. D'ailleurs, elle a gardé son bureau à l'Élysée et son secrétariat. Et on verra la Première Dame la semaine prochaine aux côtés de François Hollande à New York, sur le lieu très symbolique de Ground Zero. Lundi dernier, Valérie Trier-Weller a reçu la visite de Barbara Hendricks, ambassadrice de l'ONU pour les réfugiés. Et par image, eh bien, la compagne de François Hollande y signe toujours ses chroniques, mais elle ne met plus les pieds à la rédaction. Elle a demandé à une secrétaire de lui faire ses cartons.
Révélation de Camille Anglade du service politique d'Europe 1. Martine Aubry aurait-elle des vues sur le poste de Jean-Marc Ayrault ? C'est ce que laissent entendre des déclarations à Paris Match qui paraît aujourd'hui. « Mon objectif dans la vie n'est pas d'être Premier ministre », dit l'ancienne numéro 1 du PS. Mais elle ajoute « Si un jour, c'est là que je me sens le plus utile », pourquoi pas ? Son entourage dément en tout cas de tels propos. OGM, synonyme de poison, c'est ce que sous-entend une étude française menée dans le plus grand secret pendant 2 ans. Les chercheurs ont nourri des rats avec du maïs OGM. Conclusion, les rongeurs ont développé beaucoup plus de tumeurs. Ils sont morts plus tôt que ceux qui avaient une alimentation normale. Le gouvernement a saisi les autorités sanitaires pour leur demander leur avis.
Rendez-vous à 14h30 à l'Élysée.
Une délégation de salariés de l'usine PSA Peugeot Citroën d'Aulnay sera reçue par François Hollande. Les syndicats appellent également un mouvement de grève pour pouvoir manifester devant le palais présidentiel au moment où leurs représentants seront reçus. Rappelons que le site doit fermer. Au total, ce sont 8000 postes qui seront supprimés. Dans cette délégation, Jean-Pierre Mercier de la CGT, il va demander au chef de l'État l'arrêt pur et simple du plan social.
Le gouvernement a quand même des responsabilités politiques dans cette affaire, au vu des milliards de subventions et d'aides publiques qui sont déversées dans les caisses de Peugeot. C'est l'État, c'est le gouvernement. Il a tous les pouvoirs institutionnels pour dire à Peugeot, stop, ce plan, on ne l'accepte pas, vous le bloquez et on négocie à trois. Peugeot, les syndicats et le gouvernement. Et on obtient le maximum de garanties pour maintenir tous les emplois. Si ça, c'est pas dans le pouvoir de l'exécutif, du gouvernement, bah à quoi il sert ? À donner de l'argent, simplement ? On n'est pas d'accord.
Jean-Pierre Mercier de la CGT de PSA, au micro Europe 1 de Pierre Rigaud. Dans le journal de 8h, enquête du service économie. Les plus grosses entreprises françaises sont en train de se mobiliser pour reclasser les salariés de PSA qui sont sur le carreau.
Et maintenant, direction Nantes, où la fac se retrouve au régime sec.
Oui, elle fait partie des nombreux établissements qui connaissent de grosses difficultés financières. L'an dernier, 19 universités étaient dans le rouge. À Nantes, ça commence à se ressentir très concrètement pour les étudiants. Reportage Europe 1 de François Coulon.
Déficit record, 11 millions d'euros sur un budget universitaire de 300 millions. Résultat, serrage de vis généralisé. Régis Tetamanzi, co-directeur de la fac de lettres.
Il y a 100 000 euros de moins. C'est énorme parce que ça veut dire qu'on ne peut plus payer un certain nombre de gens. C'est tout à fait catastrophique. On a recruté à l'appel des vacataires en juin. Et on a été obligé de leur dire on ne peut pas vous payer. Vous n'assurerez pas vos cours cette année. Alors ça veut dire aussi qu'on a fermé des enseignements.
Toute la formation a dû être restructurée en catastrophe, cours supprimés, volumes horaires allégés, Xavier Liébard, documentariste vacataire.
On lui dit qu'on n'est pas sûr d'être complètement payé d'ici la fin de l'année et que les ateliers ou des formations peuvent sauter. Moi, je pense que la voie qui a été prise de privatiser l'université, en fait, a été mal pensée. S'il n'y a pas des partenariats qui ont été mis en place en amont, en fait, on se retrouve du jour au lendemain avec un budget moins important, en fait, soit qu'il n'existe plus.
Mathieu est en troisième année d'information et communication.
Plus d'espagnol. C'est frustrant de se sentir sacrifié un petit peu. Ça m'inquiète un petit peu pour l'avenir, quoi, parce que l'enseignement, c'est quand même la chose qui permet de préparer un meilleur avenir avec des gens plus compétents. Alors si on a moins de budget, c'est beaucoup plus difficile, quoi.
À la fac de sciences, un vice-doyen s'alarme. On peut payer des équipements de travaux pratiques jusqu'à la fin décembre. Au-delà, l'incertitude est totale. Nantes, François Coulon, Europe 1.
La douche froide pour le LOSC. Lille a franchement raté son premier match en Ligue des Champions.
Une cuisante défaite dans son grand stade flambant neuf. 3-1 contre les Biélorusses du Baté Borisov. Le gardien de but, Michael Landreau, ne se cherche pas d'excuses. C'était un jour sans.
Quoi dire ? Il y a des soirées qui sont très négatives et celle-là, elle en fait partie. C'est un très mauvais scénario. Ça fait partie des moments où dans une saison ou même dans une carrière, il y a des moments plus difficiles, même si il n'y a rien encore qui est joué et encore plein de choses à faire. Puis vite repartir parce que il y a un match important en championnat dimanche contre Lyon et qui est en pleine forme en ce moment.
Le gardien de but de Lille au micro Europe 1 de Lionel Gougelot. Dans le même groupe, le Bayern de Munich a battu Valence 2-1. Ce soir, place à l'Europa League. Bordeaux reçoit Bruges et Marseille joue en Turquie contre Fenerbahçe. L'occasion de voir évoluer le nouveau milieu de terrain, le bad boy Joey Barton.
Ah oui, c'est son premier match ce soir avec l'OM. Merci beaucoup Hélène Zellani. À suivre l'édito politique de Caroline Roux sur Europe 1. Notre invité Tariq Ramadan et Jérôme Commandeur à 7h50.
Europe 1, 8h-20. Europe 1, 7h42.
Europe 1 matin, Bruce Toussaint.
L'édito politique de Caroline Roux sur Europe 1. Bonjour Caroline.
Bonjour Bruce, bonjour à tous.
Ce sera donc un duel Jean-François Copé, François Fillon. Le futur leader de la droite sera l'un de ces deux hommes. La situation à l'UMP semble s'éclaircir.
Au contraire, ça fait bien longtemps qu'elle n'a pas été aussi obscure. Au-delà de la bande-annonce, Copé contre Fillon, l'un des deux sortira vainqueur. Ouais. Il y a les signes d'un morcellement très inquiétant pour la droite française. 7 motions ont été déposées en vue d'un vote au prochain congrès. Ça vous rappelle vaguement les courants du PS ?
Oui,
c'est
oui.
Normal. Et pourtant, il s'agit bien de l'UMP, du parti qui, il y a tout juste 10 ans, avait réussi sous l'impulsion de Jacques Chirac à faire coexister les gaullistes, les libéraux, les démocrates chrétiens, le tout sous un même toit. Ce parti qui était parvenu à panser les plaies des haines recuites entre UDF et RPR, entre Chirac et Balladur, ce parti qui était destiné à ramasser le plus gros score au premier tour de la présidentielle. Après l'unité et la colocation, aujourd'hui, chacun veut reprendre son petit bout de patrimoine idéologique. Droite humaniste, droite gaulliste, droite sociale, droite populaire, droite forte, demain la droite et après-demain la balkanisation, l'éparpillement des droites. Les quadras qui n'ont pas pu se présenter faute de parrainage ont tous pris date et veulent créer leur chapelle. Chacun cherche son destin et veut écrire son nom aux côtés de celui de l'UMP.
Mais une fois qu'il y aura un président de l'UMP, donc en novembre, les choses vont rentrer dans l'ordre.
Non, c'est rarement comme ça que ça se passe. Après une défaite à la présidentielle, la convalescence prend du temps. Et ça, cela n'est pas propre à l'UMP. Le futur leader de la droite aura une longueur d'avance, mais n'est pas totalement sorti d'affaire après son élection. Il devra faire face en interne à une opposition conduite par son adversaire. Copé-Fillon, le match ne va pas s'arrêter avec le vote de 250 militants. Le perdant 250 000, c'est 250 000 naturellement. Le perdant, à moins d'une humiliation, aura des velléités de continuer à peser dans le parti. Il devra gérer l'OPA amical de Jean-Louis Borloo qui veut ressusciter l'UDF et récupérer les centristes égarés de l'UMP. Il devra, et c'est sans doute sa mission la plus ardue, réinventer un logiciel qui fédère, réussir le grand écart entre ces deux droites, celle qui se bouche le nez quand on lui parle du FN et celle qui est prête à lui tendre la main, le tout sans offenser la mémoire de l'idole Nicolas Sarkozy.
Oui, alors Nicolas Sarkozy va rester au-dessus de la mêlée ?
Naturellement, il va assister au combat des 7 motions, le combat des 7 nains, comme on dit, un brin méprisant dans son carré de fidèles.
Ouais.
Il restera le symbole des jours heureux, où le parti était uni, à moins que son successeur ne parvienne à fédérer les hommes et les idées. Là, l'idole sera sans doute tentée de descendre de son piédestal, peut-être un peu plus tôt que prévu, et de reprendre sa place dans l'arène. La question, c'est pas savoir si il revient, mais quand.
Ouais. On en parlera tout à l'heure avec Claude Guéant, l'ancien ministre de l'Intérieur, qui est l'invité de Jean-Pierre Elkabbach sur Europe 1. Et quand vous parlez de balkanisation de l'UMP, ça n'a rien à voir avec le maire de Levallois.
C'est, rien à voir.
C'est bien les Balkans. Merci beaucoup pour cette précision, Caroline Roux. Et à demain sur Europe 1.
Il est 8h moins le quart.
Europe 1 matin.
Bruce Toussaint.
Merci d'être avec nous. Les titres d'Europe 1 matin, les caricatures de Charlie Hebdo, pas de menace sur les établissements français dans les pays musulmans. Le Quai d'Orsay décide pourtant de fermer les ambassades, consulats et écoles dans une vingtaine de pays demain. Écoles fermées dès aujourd'hui en Tunisie et en Égypte. On en reparle dans un instant avec Tariq Ramadan sur Europe 1. Al-Qaïda au Maghreb islamique menace de tuer les 4 otages français enlevés au Niger il y a 2 ans. ACMI dénonce le soutien que la France pourrait apporter à une force africaine au Mali pour chasser les islamistes. Inquiétude sur les OGM, une étude menée en secret sur des rats montre les risques d'un maïs génétiquement modifié, mais aussi ceux de l'herbicide Roundup, le plus utilisé au monde. Le football, naufrage de Lille hier soir en Ligue des Champions, le LOSC s'est incliné à domicile 3-1 devant les Biélorusses du Baté Borisov.
Europe 1 matin.
Bonjour Tariq Ramadan.
Bonjour.
Merci d'être en ligne avec nous ce matin sur Europe 1. Je rappelle que vous êtes professeur d'études islamiques contemporaines à l'université d'Oxford, auteur aussi de « L'islam et le réveil arabe ». Vous êtes à l'étranger actuellement, mais vous suivez, j'imagine, cette polémique qui n'en finit pas en France et à l'étranger après la publication par Charlie Hebdo de caricatures de Mahomet. Est-ce que ces caricatures vous choquent ?
Non, écoutez, plus rien ne me choque venant de Charlie Hebdo. Je veux dire que de ce point de vue-là, j'ai pas véritablement été choqué. Vous savez, j'étais aux États-Unis la semaine dernière et j'ai participé à tout le débat qui était lié à cette vidéo sur Internet, à l'appel qu'il fallait faire aux femmes et aux hommes et aux musulmans à travers le monde de calmer les choses, de prendre de la distance, de ne pas réagir à une provocation, à des intentions d'un groupuscule derrière, parce que c'est pas l'État américain, c'est un groupuscule derrière qui cherche effectivement à promouvoir le conflit.
Alors, revenons sur Charlie Hebdo si vous voulez bien. Donc vous dites que ça ne vous choque pas, c'est la liberté d'expression.
C'est la liberté d'expression et en même temps, il faut qu'on se mette d'accord sur une chose. On a d'un côté des gens qui sont clairement, vous savez, il y a des gens qui disent en France, comme ils le disent ailleurs en Europe, que l'islam est un cancer, un problème, que ça ne peut pas être démocratique et qui alimentent cette idée en provoquant des choses de cette façon-là. Puis d'un autre côté, on a des groupuscules qui sont parfois des littéralistes, parfois des gens qui sont qui réagissent émotivement, émotionnellement à tout ceci. Et ces deux extrêmes se confrontent. Ce sont des alliés objectifs de la tension. Et vous avez à côté de ceci des gens comme Charlie Hebdo.
Ouais.
Non, je suis désolé, un peu opportuniste, qui se font de la publicité un tout petit peu facile, ils nous l'ont déjà fait, en alimentant et en rajoutant. Alors j'ai entendu tout à l'heure des témoignages que vous aviez de personnes, de Français musulmans, et qui disaient qu'on en a marre, quoi. Il faut dépasser tout ceci. Malheureusement, Charlie Hebdo surfe sur la vague, fait du bruit, et on a envie de dire aux gens de Charlie Hebdo, certes, votre liberté d'expression, mais dans le contexte actuel, après ce qui vient de se passer, la mort d'un ambassadeur en Libye, des tensions partout dans le monde, majoritairement musulmans, il faut dire aux populations, effectivement, qu'elles ont tort de réagir émotionnellement, mais quand on sait ce qui se passe...
Oui, mais Tariq Ramadan, il faut créer un calendrier les jours où on a le droit de se moquer de l'islam. On ne va jamais s'en sortir.
Non, il ne faut pas créer un calendrier. Il faut simplement avoir la responsabilité de ses actes. Quand vous avez...
Mais il n'y a jamais de bons moments si on va...
Bien sûr qu'il y a des bons moments. En tout cas, il y a des très mauvais moments. Ce n'était pas le moment d'en rajouter. Ce n'était vraiment pas le moment. Écoutez, votre Premier ministre et le ministre des Affaires étrangères doivent fermer des écoles et des ambassades dans 20 pays. Ceci n'aurait pas été le cas si ça avait été un autre moment. Pourquoi le font-ils maintenant? Parce qu'il y a une semaine, il y a un ambassadeur qui a été tué. Il faut être responsable de ses actes un peu.
Est-ce que la France a surréagi en fermant justement les écoles et certains établissements?
Non, je ne sais pas, parce que tout peut arriver. S'ils le font, c'est qu'ils savent que tout peut arriver. Vous savez, on a affaire à des groupes qui sont parfois des extrêmes. On sait aussi que les salafistes sont liés à des groupes plus extrêmes, parfois, dans certains pays. On a des gens qui peuvent réagir émotionnellement. Tout peut arriver. Vous avez 4 otages qui sont au Mali aujourd'hui et la France est aujourd'hui attaquée. C'est pas le moment d'en rajouter. Et on ne peut pas simplement assis du haut de son fauteuil confortable en France, dire la liberté d'expression, je fais ce que je veux, on a la responsabilité de ces libertés, on a la responsabilité de ces droits, et on n'expose pas les gens de cette façon-là.
Vous avez alors, Tariq Ramadan, si...
en Tunisie qui disent, ouais. qui disent à Charlie Hebdo, mais soyez responsable, enfin.
Tariq Ramadan, si on n'en rajoute pas, donc, à ce moment-là, on ne va pas manifester samedi à Paris. Il y a plein d'appels à manifester depuis plusieurs jours, notamment sur Internet. Vous dénoncez ces appels ?
Complètement, je pense que attaquer en justice Charlie Hebdo, manifester dans les rues de France, c'est totalement contre-productif. La seule attitude noble, c'est en face de la provocation de ceux qui cherchent à développer une islamophobie en France ou de Charlie Hebdo qui surfe sur la vague, c'est ignorer ces attaques, regarder au-dessus en disant nous sommes français, nous sommes pour l'avenir de la France et tous ceux qui essayeront par de la provocation ou en surfant sur la vague, soi-disant en utilisant la liberté d'expression, ben notre réponse c'est soit nous vous ignorons dans votre haine et nous construisons avec les Français de toutes les confessions ou sans confession qui décident de vivre ensemble. Donc il ne faut absolument pas manifester, pas répondre, être dans le calme. Et il appartient aux élites et aux savants et aux intellectuels musulmans, de ceux qui sont les leaders d'organisation, de dire avec force ceci, que même si notre cœur blessé, notre intelligence doit avoir la dignité de ne pas répondre et de regarder au-delà. Ça c'est la réponse qu'il faut donner. Et puis il faut, avec vous, vous aussi journaliste, dire à Charlie Hebdo un peu de responsabilité dans l'usage de vos droits, car il se pourrait que des droits mal utilisés produisent la fracture sociale.
Tariq Ramadan en direct sur Europe 1. Merci à vous. Dans un instant, un peu d'humour. Anne Roumanoff.
Jérôme Commandeur aujourd'hui.
Ah, Jérôme Commandeur, pardon. Dans mon élan.
Elle a dû sursauter dans son lit rouge, Anne. 7h52 sur Europe 1.
Bruce Toussaint.
Europe 1 matin.
7h53.
Plaisir des yeux, bonheur du cœur. Voici l'humeur de Jérôme Commandeur. Bonjour Anne Roumanoff.
Oui, bah c'est ça.
Ah, décidément,
c'est,
ce matin,
c'est cher Bruce. Voilà.
Mon cher Jérôme, on est ravis de vous retrouver. Et ce sont les délocalisations à la SNCF qui attirent votre attention ce matin.
Parfaitement, cher Bruce. Pleine page ce matin dans Le Parisien aujourd'hui en France. L'article s'intitule « La SNCF délocalise en Europe de l'Est et en Espagne ». Alors au moment où l'emploi est censé être la préoccupation numéro un du gouvernement, ça fait plutôt mauvais genre. L'histoire est en elle-même un petit concentré de mondialisation. Oui. La société de services informatiques française Steria, qui travaillait pour la SNCF, a perdu son contrat au profit de la société américaine IBM, mais qui, elle, a ses filiales en Europe de l'Est. Sauf que tout ce petit monde, est obligé de s'entendre pour assurer la transition. Et là, comme le dit un responsable du syndicat Sudrail, les techniciens français ont beaucoup de mal à parler avec leurs collègues polonais. Tu m'étonnes. Sergueï, oh, écoute-moi. On travaille pas jeudi en 8, hein, on fait grève.
Grève ? Basigny et grève.
Ah oui, demande ce que c'est la grève, il connaît pas forcément. Grève is fierté française. Very popular in SNCF, grève. Grève in SNCF is a pic d'activité. D'ailleurs, à Sudrail, on travaille plus en grève qu'au boulot. Enfin bon, là, ça devient trop compliqué, donc bon, bref, peu importe. Donc la SNCF n'est pas la seule. Beaucoup d'entreprises publiques françaises confient la fabrication de leurs outils à des entreprises étrangères. Les 50 cm cubes de la poste sont taïwanais. Les uniformes de l'armée de terre sont fabriqués en Chine. Les cartes vitales en Inde. Et souvenez-vous, François Hollande s'en était plaint d'ailleurs, le syndicat des transports d'Île-de-France a son centre d'appel, sa hotline, comme on dit, au Maroc. Syndicat du transport d'Île-de-France, bonjour. Oui, bonjour madame, je voudrais un renseignement sur ma carte Navigo, s'il vous plaît. Mais bien sûr monsieur. Mais avant toute chose, je dois me présenter, je suis Claire Fournier. Et c'est moi qui vis, m'occupe de votre appel. Excusez-moi, mais mon appel tombe où là au juste? Vous êtes à l'étranger? Mais bien sûr que non monsieur, vous êtes à Bordeaux. Ah oui. Et il fait quel temps à Bordeaux? Il fait quelque chose. Donc la mondialisation est partout. Quant à moi, je n'ai jamais su quel temps il faisait à Bordeaux. Mais pour ça, j'ai Laurent Cabrol et Valérie Darmon.
Merci beaucoup, Jérôme Commandeur. On vous retrouve demain.
Avec plaisir.
Merci beaucoup.
Et vous donnerez mon vrai nom.
Oui, on va essayer. Oui, je vais voir. Je peux progresser d'ici à demain. Dans quelques minutes, le journal de 8h avec Maxime Switek. Au sommaire, une enquête Europe 1 sur le reclassement des ouvriers PSA d'Aulnay. Leur profil intéresse plusieurs grands groupes industriels. Et puis, Acme, on en parle depuis le début de cette matinale. Acme menace de tuer les 4 otages français enlevés au Niger. Al-Qaïda s'adresse directement à leur famille. Décryptage à suivre sur Europe 1. Valérie Darmon, illuminez notre matinée, s'il vous plaît.
Je vous donne la météo à Bordeaux, au hasard.
Ah bah oui.
26 degrés prévu cet après-midi avec du ciel bleu. C'est une des régions où il va faire le plus chaud de toute façon, tout le sud-ouest, avec 29 à Mont-de-Marsan ou encore 28 à Toulouse. Voilà, pour le ciel, ailleurs, le voile nuageux persiste en journée sur le nord du pays et le ciel restera un peu plus nuageux sur le nord de la Picardie jusque sur l'île. Quelques nuages sans conséquence qui débordent aussi sur le sud-est. Entre les Bouches-du-Rhône et la région de Menton, cet après-midi, midi à l'image de la moitié sud, le ciel va se dégager et en plus Mistral et Tramontagne ont le bon goût de s'essouffler, donc ça c'est pas mal, la journée sera donc très très agréable, presque estivale sur toute la moitié sud. Les valeurs sont en hausse, on gagne 1 à 3 degrés. Ce matin, par contre, on se gèle, on l'a tous remarqué. Entre 0 à Verdun et 18 à Nice, on aura aussi 3 à Aurillac, 4 à Montluçon, 5 à Bourg-en-Bresse, 6 à Manosque, 7 à Embrun, 8 à Brest et 9 degrés seulement à Paris. Vous voulez la météo du week-end ?
Ah ben, évidemment.
Je sais que vous êtes friand.
Oui, j'aime bien le week-end.
Voilà, comme nous tous.
C'est vrai, non mais
donc, demain.
J'ai pas peur de le dire. Allons-y.
Alors, allons-y. Donc demain, c'est plutôt pas trop mal encore. Ça s'ennuage un petit peu, sauf sur un bon tiers sud. Et puis la pluie qui revient sur le Poitou-Charentes jusque sur le Limousin. Et les températures qui grimpent jusqu'à 31 en Aquitaine. Samedi, c'est très mitigé, mais ce sera sec globalement. Et dimanche, ça devrait se dégrader sur la moitié nord. Donc si vous restez en région parisienne, Bruce, vous aurez de la pluie.
Merci Valérie. Réveil, courage, café. Bienvenue sur Europe 1. On est avec vous.
Il est 8h.
Europe 1 matin.
7h, 9h.
Bruce Toussaint.
Le journal de 8h, Maxime Switek, bonjour.
Bonjour Bruce, bonjour à tous.
À la une ce matin sur Europe 1, une petite bouffée d'oxygène pour les ouvriers de PSA.
C'est une enquête Europe 1. Plusieurs grands groupes industriels proposent d'embaucher les salariés de Peugeot, Citroën, Airbus, la SNCF. On fera la liste avec Martial You. Les syndicats de PSA sont reçus aujourd'hui à l'Elysée. La terrible menace d'Al-Qaïda, Acme, menace de tuer les otages français du Niger. On essaiera de comprendre ce qui est en train de se passer. À la une également, la France qui ferme ses ambassades et ses écoles dans les pays musulmans. Une étude plus que troublante sur la dangerosité des OGM. Et puis, nous vous donnerons des nouvelles de Nicolas Sarkozy. Son retour sur la scène médiatique, c'est pour très bientôt.
À 8h10, le vrai faux de l'info sur Europe 1. La rédactrice en chef du magazine Closer affirme que la publication de photos de princesses nues remonte aux années 60. Alors, vérité ou intox, Laurent Guimier a enquêté. À 8h20, l'ancien ministre de l'Intérieur, Claude Guéant, sera face à Jean-Pierre Elkabbach sur Europe 1.
Europe 1 matin.
Et donc pour ouvrir ce journal, ce sera l'une des images du jour, les syndicats de PSA reçus à l'Elysée.
Rencontre prévue à 14h30 avec François Hollande, la discussion pourrait être animée. Notre enquête Europe 1 ce matin, enquête sur le reclassement des ouvriers de PSA. On rappelle les chiffres, 8000 suppressions de postes prévues. Le plan social se met à peine en place, mais des grands groupes industriels français proposent déjà d'embaucher plusieurs centaines de futurs ex-salarié de Peugeot, c'est ce que vous nous révélez ce matin, Martial You. Martial, on le disait, c'est une petite bouffée d'oxygène.
Oui, et dès février d'ailleurs, avant l'annonce du plan, eh bien, il y a le constructeur de moteurs d'avion Safran qui a contacté PSA, ça a été un des premiers. Aujourd'hui, 400 candidatures ont été sélectionnées et une centaine de personnes ont déjà passé leur entretien d'embauche et sont sur le point d'intégrer le groupe d'avionique, comme on dit. Et puis on parle là d'ouvriers qualifiés, ils auront droit donc à une petite formation complémentaire pour passer de la voiture à l'avion, mais également d'ingénieurs en recherche et développement. À la SNCF, on se refuse pour l'instant à donner une fourchette, mais il y aura sans doute plusieurs centaines d'ex-PSA qui vont basculer sur le train parce que la SNCF recrute chaque année 10 000 personnes. 10 000, ça laisse de la place. Et ce sera essentiellement des salariés d'Aulnay parce qu'il y a des besoins en région parisienne pour la SNCF. Certains profils sont donc déjà à l'étude et le DRH du groupe ne s'en cache pas. Les candidats Peugeot l'intéressent.
Le profil des salariés de l'automobile est un profil intéressant pour une entreprise comme la nôtre, d'abord par l'expérience acquise, par les compétences comme les mécaniciens, les électriciens, les électromécaniciens. Au niveau de la culture industrielle, nous sommes finalement assez proches entre les métiers de l'automobile et les métiers de la maintenance du matériel roulant. Et
voilà, François Noguel, le DRH de la SNCF, chez EADS aussi, principalement chez Airbus à Toulouse. On s'intéresse cette fois aux spécialistes du design et à des gestionnaires de projets, mais là, les embauches seront un peu plus limitées parce que le groupe a déjà recruté 2500 personnes l'an dernier.
Merci Martial Liu, enquête signée du service économie d'Europe 1. Deuxième titre ce matin à la une, la France ferme ses écoles et ses ambassades dans une vingtaine de pays musulmans.
Oui, c'est la conséquence directe de cette nouvelle polémique déclenchée par Charlie Hebdo et ses caricatures du prophète Mahomet.
Alors pas forcément de menaces précises, mais vu le contexte actuel, le gouvernement craint des manifestations, notamment demain, vendredi, jour de prière. Parmi les pays concernés, on peut citer l'Égypte, le Yémen ou encore la Tunisie. Témoignage ce matin sur Europe 1 de Faouzi. Sa fille est en terminale au lycée français de Tunis. Vous allez l'entendre, Faouzi en veut à Charlie Hebdo.
Je pense très honnêtement que là, ils en remettent une couche qui n'était pas nécessaire et dont on n'a pas besoin. Ces caricatures sont vécues comme une provocation et comme un dénigrement de la foi. Et il est certain que les groupuscules extrémistes vont sauter sur l'occasion pour venir nous dire, voilà, cette liberté qui ne respecte rien, eh ben, ce n'est pas cet exemple-là qu'il faut construire en Tunisie. Il faut se refermer, revenir vers les livres saints, revenir vers le conservatisme. Je pense que franchement, Charlie Hebdo ne nous aide pas.
Voilà, témoignage recueilli par l'envoyé spécial d'Europe 1 en Tunisie, Didier François. Alors je reviens sur ces caricatures dans le journal Charlie Hebdo. Une plainte a été déposée hier à Paris par une mystérieuse association syrienne pour la liberté. Plainte pour provocation à la haine. L'avocat de Charlie Hebdo parle d'une démarche fantaisiste. Pour le moment, François Hollande n'a pas réagi à cette affaire. Pas directement en tout cas. Hier soir, le chef de l'État a simplement expliqué que toutes les religions doivent être respectées dans notre République laïque.
Et on le sait, plusieurs manifestations sont prévues en France samedi, mais le gouvernement affiche sa fermeté.
Aucune manifestation troublant l'ordre public ne sera tolérée. La phrase est signée du ministre de l'Intérieur Manuel Valls. Mais vous allez l'entendre, malgré cette fermeté affichée, certains musulmans ont décidé de défiler coûte que coûte ce week-end. Reportage à Marseille de la correspondante d'Europe 1, Nathalie Chauvance.
Il y a les appels sur les réseaux sociaux et puis il y a le porte-à-porte. Omar Djellil se présente comme un religieux républicain. Ce père de famille a choisi comme terrain la Porte d'Aix, où il connaît la plupart des commerçants musulmans. Il leur donne rendez-vous samedi après-midi. Le lieu et l'heure sont déjà fixés, des tracts imprimés. On y voit un cochon et ce slogan « Port Hebdo ». Car Omar ne s'en cache pas, lui, il ira manifester.
Je vais braver l'interdiction parce que je revendique publiquement mon droit à manifester, qui n'est pas touché. Ce ressenti-là, il existe aussi chez les musulmans quand on touche au prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Je ne reconnais aucun représentant, ni le CFCM, ni Dalil Boubaker, qui sont des petits caïds au service du gouvernement. La communauté musulmane, aujourd'hui, elle est assez mature pour pouvoir s'exprimer sans passer par des intermédiaires. Des appels au calme, on n'en veut plus.
Une communauté choquée, c'est vrai, une mère de famille se laisse convaincre. Elle ira sans doute manifester. Trop d'insultes, dit-elle, mais le débat reste ouvert, comme le souligne Nourdine, trésorier de la mosquée du quartier.
Il n'y a pas un mot d'ordre général. La preuve, c'est que certains sortent pour manifester, casser, brûler, voire tuer, comme il s'est passé dans certains pays, et d'autres, au contraire, blessés dans leur cœur, mais raisonnables dans la réaction.
Combien seront-ils samedi ? Une poignée, d'après la communauté musulmane, qui redoute par-dessus tout d'éventuelles violences. Marseille, Nathalie Chevance, Europe 1.
L'information est tombée hier soir. Al-Qaïda menace d'exécuter les otages français enlevés au Niger.
Un message diffusé sur Internet. ACMI reproche à la France de soutenir l'idée d'une intervention militaire dans le nord du Mali. ACMI reproche à la France d'avoir fermé la porte des négociations. Et l'organisation terroriste dit donc très clairement que les otages français kidnappés il y a un peu plus de 2 ans sont en danger de mort. Bonjour Anne Gudicelli.
Oui, bonjour.
Vous êtes experte spécialisée dans l'étude des risques en matière de sécurité. Dans ce message, il y a une chose qui frappe, c'est qu'Al-Qaïda s'adresse directement aux familles et pas au gouvernement. Pourquoi, à votre avis ?
Ce n'est pas véritablement nouveau. C'est un procédé qui est assez classique dans toute cette mouvance-là, à savoir d'envoyer le message à l'État, mais en interpellant la famille et donc l'opinion publique pour faire pression sur le pouvoir politique.
On a l'impression que les négociations sont complètement bloquées. Qu'est-ce qui pourrait débloquer la situation ?
Écoutez, là, il y a une situation quand même compliquée au niveau régional. On suppose que les groupes et les otages avec sont au nord Mali. Normalie, qui est donc sous occupation, entre guillemets, de groupe de tout bord, dont ACMI, qui en a fait aussi son territoire. Et donc, il y a des préparatifs d'interventions qui sont actuellement en discussion au travers d'une éventuelle résolution de l'ONU qui donc permettrait d'envoyer des forces africaines soutenues par la France précisément dans cette partie-là du Mali pour chasser les groupes. Hein. D'où la difficulté extrême aujourd'hui pour les otages qui sont, je dirais, également otages de la situation régionale.
D'après vous, la seule solution, c'est de payer la rançon ?
Là-dessus, la France a dit clairement que, si vous voulez, sa position, c'est le paiement de rançon ne peut que contribuer à renforcer et à développer le terrorisme puisque ça le finance. Donc, la question de la rançon n'est visiblement pas la carte que le gouvernement français et les entreprises donc avec veulent jouer.
Anne Giulicelli, merci. Anne Giulicelli du cabinet Terrorisme, merci d'avoir été avec nous sur Europe 1 ce matin. Dans un instant, la suite du journal, les OGM. Y a-t-il danger dans notre assiette ? A tout de suite et bon appétit.
Europe 1, 8h08. Europe 1, 8h10.
Europe 1 matin, Bruce Toussaint.
Suite du journal de Maxime Switek. Dans l'actualité ce matin, il y a aussi cette étude qui jette le trouble sur les OGM.
Étude réalisée par des chercheurs français. Elle a été menée dans le plus grand secret. Ses résultats sont très clairs. Les rats qui ont été nourris avec du maïs OGM Monsanto pendant 2 ans meurent plus rapidement et développent beaucoup plus de tumeurs que les autres. Bonjour Ève Roger.
Bonjour Maxime.
Quand on entend ça, Ève, on n'est pas franchement rassuré. J'ai 2 questions pour vous. D'abord, est-ce que nous, petits Français, nous mangeons des OGM ?
Alors, je peux vous le dire tout de suite, Maxime, non, il n'y a pas de purs produits OGM dans nos assiettes en France, tout simplement parce qu'ils sont interdits. Mais, parce qu'il y a forcément un mais, dans quelques cas, on peut quand même avaler des résidus d'OGM. D'abord de façon indirecte, car la viande que nous mangeons provient d'animaux qui, eux, en consomment à 80%, et en particulier du soja importé des États-Unis. Alors quand vous mangez une côte de bœuf, des œufs ou même du lait, eh bien dans la plupart des cas, vous absorbez un peu d'OGM. Et puis, il existe aussi des traces de maïs transgénique dans certains ingrédients, comme les huiles de soja et les cornflakes du petit déjeuner.
D'où ma 2e question, est-ce qu'il y a un risque pour notre santé ?
Alors, je crois qu'il ne faut pas s'affoler. Dans la viande ou le lait, ce sont seulement des traces, je vous l'ai dit. Alors, on n'a pas de certitude absolue, mais dans l'étude, les rats ont été gavés de maïs transgénique, ce qui n'est pas du tout notre cas. Alors, pour être certain à 100% de ce que l'on mange, il faut favoriser au maximum la viande bio, parce que là, on est sûr que les animaux n'ont pas été nourris aux OGM, et puis mettre ses lunettes et lire les étiquettes. En France, la mention OGM est obligatoire.
On met ses lunettes. Merci Ève Roger. Hier, juste après la publication de cette étude, le ministre de l'Agriculture a réagi. Stéphane Le Foll demande à l'Europe de durcir les procédures d'homologation des cultures OGM.
La politique, on a des nouvelles de Nicolas Sarkozy ce matin.
Ben oui, tout le monde se demandait ce qu'il allait faire depuis son départ de l'Élysée. Eh bien vous, Alexandre Cara, vous avez la réponse. Bonjour.
Bonjour.
On parle depuis des semaines de possibles conférences que l'ancien président pourrait donner aux quatre coins de la Terre. Ça se confirme, vous avez la date.
C'est même décidé, je peux vous dire ce matin que Nicolas Sarkozy devrait tenir sa première conférence dans à peu près un mois. Ce sera dans la 2e quinzaine d'octobre à New York. Une intervention généraliste devant des acteurs économiques du monde entier. D'ici la fin de l'année, il devrait participer encore à 1 ou 2 autres manifestations, dont probablement 1 à Londres. Un choix serré puisque l'ex-président a reçu pas moins d'une centaine d'invitations à prendre la parole. Résultat, il n'a pas prévu pour l'heure de reprendre son activité d'avocat. Et son agenda de rendez-vous est toujours aussi chargé. Ces derniers jours, il a vu Alain Juppé, Michel Alliot-Marie. Hier, il a déjeuné avec Teddy Riner, le médaillé olympique de judo. Et hier soir encore, il était à l'Olympia pour applaudir Carla sur scène qui chantait pour l'anniversaire de Charles Aznavour.
Quel agenda ? La politique, c'est terminé pour lui ?
Non, jamais loin la politique avec Nicolas Sarkozy. Il a suivi de très près la bataille pour les parrainages. Il a vu tous les prétendants et même encouragé certaines candidatures. L'ancien président ne voulait pas que la bataille pour l'UMP se résume à un duel Fillon-Copé, un duel à son sens trop réducteur. Évidemment, il reste prudent quand il évoque son avenir devant les visiteurs. Cet été, il a quand même confié à l'un d'entre eux « De toute façon, politiquement, rien n'est possible », il a ajouté « En tout cas, pas avant au moins 2 ans.
Alexandre Carachet du service politique d'Europe 1, merci. Encore une info Europe 1. Valérie Trierweiler est en négociation avec le groupe Canal+. Elle pourrait présenter une émission culturelle tous les 2 mois. La compagne de François Hollande a également choisi de ne plus avoir de bureau à Paris Match.
Avant les sports,
un triomphe.
Le triomphe de Florence Foresti, l'humoriste, est à Bercy jusqu'à dimanche. Diane Chénouda, vous avez vu son spectacle hier. Et oui. Ce matin, vous êtes arrivée à la rédaction en nous disant, c'est simple, c'était Broadway.
Ah oui, c'est ça, c'est un super show à l'américaine avec débauche d'effets spéciaux et de lumière. Florence Foresti chante, danse et comme toujours s'amuse d'elle-même, de la vie à deux et cette fois du bonheur, le bonheur qui lui coupe l'inspiration.
C'est bien, à tout point de vue, qu'est-ce que je peux même pas avoir de chagrin. Mes parents ont toujours envie, ils s'accrochent. Ah bah je vais pas les pleurer, ils sont plus en forme que moi. On va courir avec ta mère, tu viens? Merde! Insupportable! Regarde, même mon couple va bien. Moi qui croyais que la vie à deux avait été inventée juste pour pouvoir changer les housses de couette plus vite.
Oui, elle nous fait rire aussi, Florence Foresti, quand elle nous dit qu'elle est vieille. Oui, dit-elle, j'ai connu Michael Jackson noir et Madonna jeune. Madonna, justement, son idole, qu'elle parodie en vidéo comme en live. Foresti, irrésistible hein, quand elle apparaît en perruque blonde et petite tenue et qu'elle imite aussi Shakira et Lady Gaga. Foresti est bluffante, vraiment meneuse de revue, flanquée d'une trentaine de danseurs. Costume signé Jean-Paul Gaultier, elle nous offre 2 heures de spectacle tambour battant avec un peps, une énergie, une pêche d'enfer.
Diane Chénouda et son peps légendaire, le spectacle de dimanche, je le précise, sera retransmis en direct dans une centaine de salles de cinéma.
Les sports, le football, Lille a perdu en Ligue des Champions.
Bruce, je vais vous l'avouer, ce n'est pas une défaite, c'est un naufrage. Le LOSC s'est fait balader à domicile par les Biélorusses du Baté Borisov. Des Biélorusses qui l'ont emporté 3-1 ce soir. 3 matchs de Ligue Europa au programme. Fenerbahçe Marseille, Lyon, Sparta Prague et Bordeaux Bruges.
Ça vous laisse
mais non,
savoir,
mais je suis encore sous le choc de cette défaite des Lillois.
Ce naufrage, vous voulez dire.
Bah oui,
et moi donc.
Bon. Merci beaucoup, Maxime Switek. Dans quelques instants, l'invité de Jean-Pierre Elkabbach, Claude Guéant, l'ancien ministre de l'Intérieur, sur Europe 1.
Il est 8h15.
Europe 1 matin.
Bruce Toussaint.
Le vrai faux de l'info, Laurent Guimier, bonjour.
Bonjour Bruce.
Ce matin, vous avez enquêté sur l'affaire qui secoue la couronne britannique avec une déclaration très étonnante de la patronne du journal Closer.
Oui, Laurence Pio, c'est la rédactrice en chef de ce journal qui a publié les photos de la poitrine de Kate Middleton. Une princesse topless, c'est pas un scoop, affirme la journaliste. Ça fait 50 ans qu'on en voit dans la presse. Écoutez.
Voilà, c'est une princesse topless, il y en a eu d'autres dans les années 60. Hein. C'est pas quelque chose de très nouveau non plus, elle est une des Made in People.
Alors la presse People des années 60 qui diffuse des photos de princesses topless, vrai ou faux?
Eh bien j'ai enquêté, c'est faux. La presse People de l'époque, c'est Paris Match. Globalement, il n'y a que ce titre qui existe. Et j'ai vérifié avec l'équipe de parismatch.com qui a l'habitude de manipuler ses archives. Dans les 500 numéros parus dans les années 60, rien à la une de match qui ressemble à un royal téton, qu'il soit britannique ou autre.
Bon, ben ça c'est la presse française, elle est réputée un peu plus sage quand même que la presse People anglo-saxonne. C'est peut-être les journaux d'outre-Manche hein, auxquels faisait allusion la patronne de Closer.
Alors d'accord, nouvelle plongée dans les archives de la presse anglo-saxonne. Rien non plus, pour en avoir le cœur net, on a contacté Robert Lassie, un des grands spécialistes de la monarchie britannique. Il est formel, les scandales de ce genre datent des années 90. En même temps que je vous parle, sur Europe1.fr, on a les pièces à conviction. 1992, Sarah Ferguson, qui est séparée du prince Andrew, est photographiée seins nus avec son petit ami qui lui suce un orteil.
Oui, c'est un détail qui ne vous avait pas échappé.
99, le quotidien Le Sun publie une photo seins nus de Sophie Rhys-Jones, la fiancée du petit frère du prince Charles. Mmh. C'était il y a à peine 15 ans. 2 gros dérapages, c'est tout. Rien à voir avec les couvertures topless à gogo dont parlait la patronne de Closer.
Alors, est-ce que vous lui avez demandé justement à Laurence Pio à quelle couverture elle faisait allusion?
Bah oui, mais elle a refusé de nous parler. Un de ses proches nous a confié qu'il pouvait s'agir d'une photo de la sœur de la reine d'Angleterre. Alors là, c'est intéressant. Illumination. En fouillant une dernière fois dans les archives, 1949, pardon, Capri, en Italie, le Daily Express publie un cliché de Margaret, la petite sœur de la future reine Elisabeth. Ouais. Elle a 19 ans et elle est complètement nue sur la photo.
Ben voilà.
Enfin, c'est ce qu'on croit. La princesse porte un maillot couleur chair qui donne l'apparence qu'elle est nue. C'est important parce que pour éviter l'incident avec la famille royale, le Daily Express a dû assombrir le maillot de bain sur la photo. L'honneur était sauf. Et moi, je continue à chercher désespérément des princesses topless ouais. dans les archives.
C'est pénible comme métier.
Ah, j'ai passé une journée terrible hier avec mon équipe.
On va vous mettre sur une autre enquête pour demain, quelque chose de plus corsé.
Il y avait aussi Jour de France comme magazine People
c'est
à
vrai,
l'époque.
C'est vrai.
Allez voir de ce côté-là.
C'était une actualité très heureuse et je doute qu'il y avait des princesses topless à la une de Jour de France.
Je pense qu'effectivement, c'était pas trop le genre de la maison. Merci.
Vous pouvez revoir les images sur europe1.fr. Hein.
Merci Laurent Guimier. Bonjour Jean-Pierre Alcabache.
Bonjour Boris.
Votre invité ce matin, l'ancien ministre de l'Intérieur, Claude Guéant.
Il a été confronté à l'insécurité, aux provocations terroristes et aux prises d'otages. Aujourd'hui, l'expérience favorise-t-elle le consensus national ? Comment s'accorder avec l'ensemble du monde musulman et résister aux défis assassins des minoritaires djihadistes ? Claude Guéant le sait-il ?
A tout de suite sur Europe.
Il est 8h19.
Europe 1, 8h20, l'interview de Jean-Pierre Elkabbach est à suivre sur Europe 1.fr en vidéo. Votre invité ce matin, l'ancien ministre de l'Intérieur, Claude Guéant.
Donc il a de l'expérience. Bienvenue Claude Guéant, bonjour.
Bonjour Jean-Pierre Elkabbach.
Al-Qaïda Maghreb menace de tuer, on l'a su cette nuit, les otages français si la France encourage une intervention pour libérer le nord du Mali. C'est un appel sans doute aussi à négocier ou à poursuivre des négociations, mais est-ce qu'il faut céder ?
Ce sont des questions bien sûr toujours très difficiles et très douloureuses parce que la France a bien sûr le souci de la vie des otages. Cela étant, il est clair qu'un pays et même la communauté internationale ne peuvent pas céder à des exigences qui sont inacceptables. Donc c'est le difficile travail des gouvernements de trouver le chemin qui permette de préserver la vie des otages, de les faire rentrer chez nous sans céder sur des principes qui sont essentiels.
C'est-à-dire qu'il faut trouver des amis, intermédiaires, donateurs ?
Écoutez, il faut déployer tous les moyens de conviction dont l'on peut disposer.
Mais vous avez payé des rançons pour obtenir la libération
France,
des infirmières bulgares, peut-être des confrères en Afghanistan,
non,
etc.
La France a une doctrine, c'est de ne pas payer. En s'agissant des infirmières bulgares, je l'ai dit déjà publiquement, il y a eu une contrepartie qui a été la mise en route d'une première tranche de l'hôpital de
Bangladesh. Donc l'État ne paye pas, mais qu'est-ce qu'il fait ? Il cherche,
comme
vous dites, le chemin. Qui peut aider ? Un Qatari ? Un Saoudien, non ?
Mais il y a de l'argent. Il y a beaucoup d'arguments politiques aussi qui sont déployés parce que ces personnes, ces terroristes ont des relations. Et des relations notamment dans l'environnement géopolitique qui est le leur. Et il y a des gens qui sont à nos côtés pour nous aider.
Mais il faut craindre ce qui se passe en ce moment au Mali et dans le Sahel. Mais
je crois que ce qui se passe là-bas est effectivement quelque chose de très grande ampleur, de très dangereux. Puisque si bien le nord du Mali est devenu maintenant un territoire en sécession par rapport au Mali, qui est sous la loi. Islamiste hein, est une loi extrêmement rigoureuse, extrêmement rétrograde. On coupe des mains au Mali tous les jours aujourd'hui.
Il y a un très bon reportage dans Le Point.
Il est en train de se préparer là-bas, une sorte de petit Afghanistan au sein
vous
de l'Afrique.
Vous voulez dire une base aussi contre les intérêts
bien
français
entendu, bien entendu.
Et occidentaux.
Et selon tout ce que je lis, d'ailleurs, il y a des djihadistes qui rejoignent du monde entier ce territoire.
Alors, vous, je pense que vous avez connu des tensions et peut-être des menaces sur le pays, sur la France, comme celles que l'on vit aujourd'hui, après le film américain « Débile » et les caricatures de Charlie Hebdo. Et je pense que vous êtes bien placé pour juger de la gravité du climat actuel. Est-ce que cette gravité est surévaluée ?
Non, je crois que la gravité est bien réelle. D'ailleurs, nous avons pu la constater après la diffusion de ce film qui s'appelle « L'innocence des musulmans » à partir des États-Unis et grâce à Internet, ou du fait d'Internet, je devrais dire, c'est parvenu partout et notamment dans le monde arabe. On a vu des manifestations partout. On comptabilise malheureusement, je crois, une trentaine de morts dans le monde entier et malheureusement, nous risquons d'avoir une répétition de ce qui s'est passé avec les caricatures de Charlie Hebdo.
Alors, justement, Manuel Valls dialogue avec les autorités religieuses, il est ministre des cultes, comme vous l'avez été, et il fait preuve de fermeté à l'égard de la tentation intégriste. Est-ce que vous soutenez la politique de votre successeur ?
Sur ce point-là, je soutiens tout à fait cette politique. Il a décidé d'interdire les manifestations, par exemple. Il a raison, parce que ces manifestations auraient trois caractéristiques. D'abord, elles créeraient un vrai risque de trouble à l'ordre public. Ensuite, elles seraient, pour beaucoup de Français, l'occasion d'une sorte de frayeur. Et puis, pour nos compatriotes musulmans, elle serait l'occasion d'une stigmatisation. Or, les musulmans français, comme les autres, pour l'essentiel, sont de braves gens qui veulent exercer leur religion paisiblement.
Donc un consensus ne serait pas tabou sur ces questions-là.
Sur ces questions-là, non. Et j'ajouterais, Jean-Pierre Elkabbach, que de cette situation, il faut tirer une conclusion politique, c'est qu'il faut mener une politique d'intégration sans réserve, d'intégration en direction de nos valeurs républicaines, de nos grands principes. Et malheureusement, je dois dire que le gouvernement, dans ce domaine, a pris ou a annoncé un certain nombre de décisions qui ne vont pas dans ce sens. Je pense, pour ma part,
que faire voter... Vous voulez dire que le consensus ne dure pas longtemps, quelques
secondes.
Non,
mais je pense qu'il peut se faire. Je pense, pour ma part, que de faire voter les étrangers aux élections municipales ouvre la voie à des communautarismes et par conséquent ne va pas dans le sens de l'intégration républicaine, de la même façon que la réduction des exigences pour l'intégration dans la nationalité française, en faisant abstraction de la connaissance de la langue, des grands principes républicains, ne va pas non plus dans le sens de l'intégration.
Il y a 15 des 27 pays de l'Union européenne qui pratiquent le droit de vote des étrangers. Vos amis de l'UMP ont lancé une pétition nationale contre le droit de vote, vous la signez ?
Oh ben je la signerai bien sûr, et c'est plutôt deux fois qu'une. Bien
oui,
sûr.
Mais c'est un vieux débat, une vieille querelle, elle va encore réchauffer les esprits.
Oui, mais c'est dommage, et c'est une raison supplémentaire pour laquelle le gouvernement ne devrait pas s'engager dans cette voie, parce que notre pays n'a pas besoin de division supplémentaire. François Hollande a fait campagne avec un thème qu'il considérait comme important, qu'il a mis sur le devant de la scène, qui était de faire en sorte que notre pays se réunisse. Or là, nous avons un sujet sur lequel il y aura une profonde division. Nous avons besoin de concentrer toutes nos forces vers le redressement économique.
Je reviens au climat en France. On entendait tout à l'heure le reportage de Fabien Cazot sur le problème posé par l'enseignement de l'histoire. Est-ce que vous aviez, vous, perçu, Claude Guéant, la montée chez les jeunes d'une sorte de radicalisme religieux ?
C'est pas spécialement chez les jeunes, mais ce qui est certain, c'est que j'ai perçu, grâce aux études qui ont été faites, je me souviens d'une étude très importante, très fondamentale, qui a été faite sous la direction de Gilles Kepel sur les villes de Montfermeil et de Clichy-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis. Il y a des groupes salafistes qui existent, qui expressément disent qu'ils ne veulent pas appliquer la loi de la République, mais qu'ils appliquent leur loi à eux, qui est une loi religieuse, qui se confond avec
la loi. Il y a un développement du salafisme en France.
Il y a effectivement un certain développement. En tout cas, il y a des poches de salafisme. Et cela est très préoccupant.
Manuel Valls est place Beauvau et il est pour le moment un chouchou des Français. Est-ce qu'il n'est pas en train de démontrer que la sécurité républicaine n'est pas le privilège de la droite et que la gauche sait faire aussi ?
Mais écoutez, les résultats le diront. Hein, mais de toute façon, moi, en termes de sécurité, je ne personnalise pas. Manuel Valls tient des discours très fermes auxquels je souscris tout à fait. La question est de savoir ce qu'on fait derrière. Or, une politique de sécurité, c'est une politique qui résulte de l'action d'un ensemble gouvernemental. Or, j'ai lu dans la presse des extraits de la circulaire de politique pénale qui vient d'être adressée au parquet par le ministre
Taubira.
De la Justice. Ça ne va pas du tout dans le sens. Et ce n'est pas seulement une question de Mme Taubira. Parce que François Hollande a dit clairement pendant sa campagne, et c'est traduit dans les faits, qu'il voulait supprimer les plaines planchers.
Non, vous ne croyez pas, vous, Claude Guéant, que le tout carcéral, comme dit Christiane Taubira, augmente les risques de récidive, que la prison génère la prison.
Mais écoutez, on peut faire des études sociologiques, mais ce que je perçois dans le discours de Mme Taubira, dans l'interview qu'elle a donnée hier au journal Le Monde, c'est que pour elle, la priorité, c'est le traitement des délinquants, et ce n'est pas les victimes.
Manuel Valls, oui, Claude Taubira, Christiane Taubira, non. Claude Guéant.
Non, mais
Claude
c'est pas une question de personne, c'est une affaire de gouvernement. Et Manuel Valls, s'il tient un discours et à une action de fermeté, doit convaincre le Premier ministre.
L'UMP, trois choses. On nous dit d'abord que, est-ce que vous le confirmez, que Nicolas Sarkozy va faire fin octobre une conférence à New York ?
Je ne suis pas au courant.
Oui.
Je ne sais pas trop ce que ça a à voir avec l'UMP. Mais...
Non, mais vous allez... Ben oui, justement, s'il revient, avez-vous dit, Nicolas Sarkozy se pliera aux primaires UMP, c'est-à-dire qu'il vous l'a peut-être dit, et
non,
vous
non.
Estimez qu'il faut lui garder une place,
moi, c'est mon
une
idée.
Place au chaud.
C'est mon opinion à moi. Bon, je pense que Nicolas Sarkozy a été un très grand président de la République, que l'histoire lui rendra raison. Je souhaite qu'il revienne un jour dans la vie politique. Je ne sais pas si ce sera le cas, mais s'il revenait, il me semble qu'il est normal qu'il se plie aux primaires.
Une question pour finir. Les deux, Copé et Fillon, se réclament de Nicolas Sarkozy.
Oui.
L'un, Jean-François Copé, s'est dit prêt à se retirer s'il le fallait.
Oui.
L'autre n'a encore rien dit. Est-ce que le plus sûr barrage à un éventuel futur retour de Nicolas Sarkozy, c'est un François Fillon qui réussirait ?
Ne faisons pas de politique fiction, nous verrons bien.
Pour vous dire que François Fillon qui réussirait, c'est de la politique fiction ?
Merci à Claude Guéant et merci à Jean-Pierre Elkabbach. Demain,
le réformiste François Chéret qui est encore 2 mois numéro 1 de la CFDT.
Dans un instant, la revue de presse de Natacha Poliani, le monde selon Alexandre Adler et bien sûr Nicolas Canteloup sur Europe 1. A tout de suite.
Il est 8h29. Europe 1, 8h31.
Europe 1 matin.
7h, 9h.
Bruce Toussaint.
Les titres de l'actualité avec d'abord cette info Europe 1. Valérie Trier-Weller devrait faire son retour à la télévision. La compagne du chef de l'État, qui a déjà officié sur la chaîne Direct 8, négocie avec le groupe Canal+ la présentation d'une émission culturelle 2 fois par semestre. L'inquiétude de la France après les nouvelles caricatures de Mahomet, les ambassades et les écoles françaises sont en alerte dans une vingtaine de pays musulmans. L'organisation terroriste Al-Qaïda au Maghreb islamique menace de tuer les 4 otages français enlevés au Niger. Elle accuse la France d'avoir appelé à envahir le nord du Mali. Lille, en mauvaise posture, dès son entrée dans la compétition de Ligue des Champions, c'est du football bien sûr. Le LOSC a été battu à domicile par le Baté Borisov, un club biélorusse, 3-1. Écoutez la réaction dépitée du joueur lillois Aurélien Chedjou.
On est tous abattus. C'est toujours mauvais de commencer chez soi avec une défaite à domicile. En plus, 3-0 en première mi-temps, on n'a pas le droit, quoi.
Les sifflets dans ce stade où on attendait la fête.
C'est tout à fait normal. Ils viennent voir l'équipe gagner, ils viennent voir un spectacle où ils n'ont pas été servis. Donc certains laissent le boulot, ils mettent beaucoup d'argent pour les tickets. Je les comprends parfaitement. Après, c'est à nous d'inverser la tendance. Dès dimanche, il va falloir mettre le bleu de chauffe et aller gagner Lyon.
Voilà la déception du Lillois Chedjou au micro Europe 1 de notre correspondant Lionel Gougelot. La rue de presse, Natacha Poloni, bonjour.
Bonjour Bruce, bonjour Julie et bonjour à tous. Ce matin, évidemment, 2 sujets à la une de vos journaux qui écrasent toute l'actualité. Le nouvel observateur en pointe, oui, les OGM sont des poisons, point d'exclamation. Et derrière, le Midi Libre reprend, OGM, la théorie du poison. Et le Parisien aujourd'hui en France, toujours pragmatique, comment éviter de manger des OGM? L'autre sujet, ce sont toujours les caricatures de Charlie Hebdo. Oui. Le Progrès constate, Charlie Hebdo rigole, la polémique s'enflamme. Le Figaro dramatise, la France en alerte. Mmh. Et Libération s'interroge, blasphème, un droit sacré.
Alors les OGM, la fameuse étude, qu'en dit la presse écrite?
Si vous voulez le détail de l'étude, donc vous vous reportez au dossier du Nouvel Observateur qui publie les bonnes feuilles du livre du professeur Serralini. Et si vous voulez le contrepoint, là vous ouvrez les pages science du Figaro où l'on nous explique que tout ça c'est de la com, que des études de long terme, il y en a déjà eu. Alors on rappellera simplement le temps qu'il a fallu pour avoir des études sur les interactions entre pesticides et autres produits toxiques, hein, dont on nous expliquait qu'ils étaient inoffensifs parce qu'ils étaient toujours testés séparément. Donc c'est ça l'intérêt de cette étude-là, c'est de se démarquer des procédures habituelles. Bon, en attendant des études plus poussées et indépendantes des industriels, je vous conseille la double page du Parisien, donc, et notamment l'article « Tout savoir pour mieux les reconnaître ». Oui. Vous le disiez dans le journal de 8 heures, on apprend que 80% des animaux d'élevage consomment des céréales contenant des OGM, et cela sans aucun étiquetage. Donc en gros, pour maîtriser ce qu'on consomme, il faut franchement s'y intéresser, lire les étiquettes, interroger les commerçants, donc préférer les artisans, les bouchers de quartier. Point positif, la France s'est dotée d'une réglementation plus stricte que ses voisins, mais le Paris nous prévient, la Commission européenne pourrait lever le moratoire sur les cultures OGM. Donc Monsanto, qui est la plus puissante machine d'appropriation et de monopolisation du vivant, pourrait s'imposer chez nous au nom de la liberté, de la libre concurrence.
Alors l'autre sujet, vous le disiez Natacha, ce sont les caricatures de Mahomet publiées par Charlie Hebdo.
Oui, et là il y a des unanimités qui rassurent. La quasi-totalité des éditorialistes récuse toute limite à la liberté d'expression qui reviendrait à se coucher devant les intégristes. Mais au-delà de la dénonciation qu'ils font d'un islam radical, il s'agirait de se demander si le principe de la laïcité est encore bien compris en France. Dans Libération, Bernadette Sauvaget nous explique, je cite, que l'islam de France joue l'apaisement. Et de citer Dalil Boubaker, donc recteur de la mosquée de Paris et incarnation de l'islam modéré, qui appelle au calme, mais qui ajoute tout de même, je cite, « Je regrette que l'incitation à la haine religieuse ne soit pas réprimée par la loi comme l'est l'incitation à la haine raciale ». Et là, on s'inquiète.
Et on a entendu Tariq Ramadan tout à l'heure sur Europe 1 à 7h45.
Exactement.
Lui aussi lançait un appel au calme assez clair. Les journaux multiplient aussi les reportages auprès de jeunes musulmans.
Oui, et là aussi, on s'inquiète. Dans Libération, ils tiennent le discours victimaire sur les musulmans qu'on prend pour des cons. Dans Le Figaro, c'est une enseignante d'une école islamique qui explique à ses élèves que tout ça, c'est un complot orchestré par les États-Unis et Israël pour, je cite, « faire basculer le monde musulman dans la violence ». Mais en fait, ce que l'on comprend à la lecture de la presse ce matin, c'est comment se conjuguent en France deux phénomènes. L'un mondial, c'est la radicalisation d'une partie du monde musulman face à l'Occident et notamment aux États-Unis. Et l'autre, c'est le malaise d'une jeunesse en quête d'identité. Alors pour comprendre le premier phénomène, il faut lire dans Paris Match le texte formidable de Jean-Christophe Ruffin, académicien, ouais. ancien ambassadeur de France au Sénégal, et qui nous explique comment l'Occident, au nom de la lutte contre les dictateurs, a, je cite, « décerné le titre de combattant de la liberté à tant de gens qui n'avaient pour seule ambition que de pratiquer la terreur et d'instaurer à leur tour la dictature ». Et là, je serais Bernard-Henri Lévy, je me sentirais un peu visée.
L'autre phénomène ?
Alors là, il faut lire le dossier du Point. Islamisme, crise de l'autorité, violence contre les profs, qu'est-ce qui cloche ? Interroge l'hebdomadaire. Vous y trouverez des policiers racontant comment ils passent leur journée, je cite, à baisser leurs pantalons devant des petits voyous. Des professeurs, je cite encore, tiraillés entre leurs convictions humanistes et les principes de laïcité. Des juges même, les fameux juges pour enfants de Bobigny qui ont la réputation d'être laxistes et qui sont insultés, agressés. Mais vous avez surtout des interviews du pédiatre Aldo Naouri, d'Alain Finkielkraut et même de Daniel Cohn-Bendit, où l'on comprend que tout est lié en fait, l'éducation, l'autorité, la laïcité, et donc ce fameux idéal républicain qui énerve tant certains libertaires, et mais qui est le seul rempart contre le communautarisme.
Le clin d'œil du jour.
Ah bah oui, pour retrouver un peu de légèreté, on s'offre une petite mousse. Mais alors même là, il y a censure. Le Parisien nous apprend que les fans de la série Les Simpsons sont apoplectiques.
Apoplectiques.
Mais oui, la bière préférée d'Homer Simpson, la Duff, apparaît désormais floutée à l'écran. Pourquoi ? Eh bien parce que cette bière inventée par les créateurs de la série est devenue tellement célèbre que la marque a été créée et commercialisée. Or, en France, il est interdit de faire de la publicité pour une marque existante, d'où le floutage. Mmh. Alors, vous imaginez le jour où Charlie Hebdo va dessiner Mahomet en train de boire de la Duff.
Effectivement, ça fera scandale. Merci, Natacha Polony. Dans moins de 5 minutes maintenant, Nicolas Canteloup sur Europe 1.
Il est 8h38.
Bruce Toussaint. Europe 1 Matin.
L'actualité internationale, Alexandre Adler, bonjour.
Bonjour Bruce.
On va revenir effectivement sur ces caricatures de Mahomet, mais il y a une question quand même. La France ferme ses écoles en Tunisie, en Égypte, par précaution, dans la crainte de représailles. Mais pourquoi dans ces deux pays, est-ce que la situation interne de ces deux pays n'est pas au fond la vraie cause de ces fermetures, Alexandre ?
Alors la réponse est oui. Et la suite est contre-intuitive, comme on dit en physique, c'est-à-dire que finalement, c'est pas l'intuition nous renseigne pas, parce que la première évidence serait de dire, bah oui, c'est les frères musulmans qui sont au pouvoir en Égypte, ils le sont aussi parce qu'Ennahda leur est très proche en Tunisie, donc c'est eux qui attisent la violence et l'intolérance. Alors, entendons-nous bien, ni les frères musulmans égyptiens, ni Ennahda ne sont des grands partisans de la tolérance, du respect de l'autre. Ils ont beaucoup l'insulte à la bouche, mais ils ne donnent pas toujours l'exemple. Morsi, le président égyptien, par exemple, avait le 11 septembre déclaré que c'était un complot américano-sioniste qui avait déclenché l'attaque contre les États-Unis. Donc, vous voyez combien je ne suis pas un fanatique de Morsi. Mais en fait, les frères musulmans égyptiens, comme Ennahda, sont l'objet de l'attaque que représentent ces violences. Parce qu'en réalité, il y a un conflit entre le courant islamiste, on va dire modéré, je n'aime pas ce mot, disons en tout cas, qui joue le rôle, le jeu des institutions et de la prise de pouvoir par les élections, et puis des groupes beaucoup plus activistes et qui veulent changer tout de suite la société dans le sens de l'islamisation. Alors ces deux groupes sont en surenchère, et bien entendu l'affaire amène ce qu'on appelle les salafistes, qui sont eux-mêmes une nébuleuse assez confuse, à essayer de faire basculer l'opinion, d'abord en Égypte et en Tunisie, sans doute ailleurs. Et donc, Morsi, comme Kranouchi en Tunisie, essaie de prendre la tête des manifestations pour mieux les calmer. C'est une vieille tactique que j'ai apprise à la CGT dans mon jeune temps face aux gauchistes. Il vaut mieux prendre la tête et puis ensuite encadrer. Et c'est en effet comme cela qu'ils espèrent faire petit à petit rentrer le fleuve dans le lit, car ils n'ont envie ni les uns ni les autres d'un affrontement généralisé avec l'Occident.
Merci Alexandre Adler.
Et à 8h-20, la météo avec Air France.
La France métropolitaine est à partir de 50€ TTC. Elle est simple avec Air France. Tarif aux frais de service soumis à conditions.
Valérie Darmon, quelle est la tendance pour aujourd'hui ?
Une matinée qui est déjà fraîche, hein. Ça on l'a remarqué, la plus fraîche de la semaine, sous le soleil quand même pour toute la journée, avec donc les minimales qui sont descendues pratiquement partout sous les 10 degrés, excepté sur le pourtour méditerranéen et les côtes du Boulonnais où les nuages bas ont adouci votre temps. Météo France a même revu ses prévisions à la baisse pour ce matin, avec moins 2 à Charleville, moins 1 à Verdun et à Aurillac, 0 à Montluçon, 1 à Troyes ou encore à Compiègne, 3 à Rennes, 4 à Colmar et Angers, 6 à Lille et Nantes, 7 à Bordeaux, 8 à Paris. C'est dire comme il faut porter une petite laine. À partir de demain matin, la bonne nouvelle, c'est que ça remonte aussi bien le matin que l'après-midi parce qu'on aura plus de nuages. Cet après-midi déjà, ça se radoucit. Les valeurs oscilleront entre 15 à Morteau et 29 à Mont-de-Marsan. Et je vous le disais, la fraîcheur n'empêche pas le soleil. Il y aura du beau pour tout le monde. C'est un peu plus voilé sur le nord, mais rien de méchant.
Merci beaucoup. Dans quelques instants, Nicolas Canteloup sur Europe 1.
Europe 1. Ce soir, à partir de 20h sur Europe 1, soirée spéciale Sister Act, en direct du Théâtre Mogador, à l'occasion de la grande première à Paris, avec toute l'équipe de l'émission Des Clics et des Claques autour de Bérangère Bonte, et avec Nico Saliagas, qui accueillera les invités sur le tapis rouge et fera vivre aux auditeurs les coulisses du spectacle avant le lever de rideau, mais aussi à l'entracte avec les personnalités présentes. Nico, qui vous proposera également une interview de Whoopi Goldberg, vous savez, qui a créé le rôle au cinéma. Rendez-vous ce soir sur Europe 1. De 20h à 22h30 et en direct et en vidéo sur europe1.fr. Il est 9h moins le quart.
Tous aux abris, la vague Canteloup envahit Europe 1.
C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et aujourd'hui, c'est notre confrère, on peut dire, Patrick Poivre d'Arvor, qui est avec nous ce matin.
On peut le dire.
Bonjour Patrick, alors votre actu en ce moment, c'est quoi ? Dites-moi.
Oui, bonjour.
Racontez-vous.
Julie, Laurent, Marc, écoutez, mon actu, Bruce, pardon, Valérie, mon actu, qu'est-ce que j'ai comme actu ? C'est une bonne question.
On a de bonnes questions ici.
Je n'ai pas d'actualité, disons, brûlante, ni tiède non plus d'ailleurs. C'est même relativement calme. Mon dernier changement de chaîne, ça a été chez moi, avec ma télécommande dans mon salon. Sinon, je n'ai pas de livres qui sortent non plus en ce moment. Hein? Ce que j'ai sorti de plus récemment... Mais c'est mon chien, donc c'est somme toute assez calme.
C'est
allez,
calme,
tout de suite
oui.
Les titres, oui. Avant que je chiale.
Oh non, reprenez-vous, ça va aller Patrick, ça va aller.
Politique, Jean-Louis Borloo lance un nouveau parti, ça il fallait s'y attendre. Après les vendanges, Jean-Louis Borloo a toujours des grandes idées. Dans deux Alka-Seltzer, ça lui passera, rassurez-vous. Et puis cinéma, avec cette bonne nouvelle, le film Intouchable serait dans la course pour les prochains Oscars. De Rouille et d'Os, dans lequel Marion Cotillard joue une femme amputée des deux jambes, pourrait également bien figurer aux Oscars. Oui. Donc en résumé, un muet l'année dernière avec The Artist, un paraplégique avec Clusé, une amputée des deux jambes avec Marion Cotillard, c'est plus du cinéma, c'est les Paralympiques.
Oh.
C'est comme ça qu'ils nous aiment donc les Américains. Et puis, presse et scandale. Après les photos de Kate Middleton seins nus dans Closer, les caricatures de Mahomet dans Charlie Hebdo, un nouveau seuil pourrait être franchi. Dès demain, dans une nouvelle publication, Charlie Closer, où l'on découvrira des photos de Mahomet seins nus. Et oui, on prend des risques ce matin sur Europe 1. Pour tout vous dire, en fait, on souhaite, avec la direction, refaire le hall d'entrée d'Europe 1 et on compte faire marcher la
Oh non, arrêtez.
D'où cette vanne un petit peu borderline.
Ah oui, non, Patrick.
Et puis, naissance, une bonne nouvelle, on l'a appris en Russie. A eu lieu la naissance d'un bébé Lily.
Ah oui, si, on a vu ça aussi
regardez
dans les
images. Bruce, oui. Valérie, regardez les images sur le net. Ouais. Le Lily, donc, est un animal hybride qui est le croisement d'un lion et d'une tigresse.
Oui.
Jules Leclerc.
Oh, oh.
J'aimerais vous annoncer la bonne nouvelle. Il y a d'autres naissances à venir.
Dominique Strauss-Kahn, vous avez d'autres naissances à annoncer,
oui.
Vous
Oui, notamment la naissance d'un bébé Strauss-chèvre. D'un bébé Strauss-vache également.
Oh non.
Sans oublier un Strauss-canard.
Oh non.
Et bien sûr, une Strauss-truie.
Oh, écoutez, ça suffit, monsieur Strauss-Kahn.
Quoi, vous ne voulez pas que je vous raconte mes vacances à faire ?
Oh non, pitié, oh là là.
Je peux vous dire que c'était magnifique. L'amour, comment vous dire ? Oui, l'amour était dans le pré.
Oh.
Dans la paille aussi.
Oh non.
Et dans le foin. Dans les tables.
Oui, non, c'est bon.
Dans l'écurie,
non,
la grainetterie,
si,
la porcherie aussi
on
une
compris,
fois.
On a compris, monsieur Strauss-Kahn, c'est bon.
Strauss-truie.
Oh non, arrêtez.
Écoutez, je suis célibataire, monsieur Toussaint, ma mère.
Oui,
je
bon.
Rappelle que j'ai le droit d'explorer aujourd'hui.
Oh, ça suffit, ça sera sans nous. Hein,
les c'est... bruitages, c'est magnifique, oh, hein, là, vous avez remarqué. Là, là. C'est
très technique, les bruitages.
Très technique, il y a un gros travail, là.
Et du coup, on n'a même pas pu souhaiter un bon anniversaire à Patrick Poivre d'Arvor.
Mais oui,
aujourd'hui. Oui, je l'ai remarqué, j'étais en train d'essuyer quelques larmes.
Mais vous avez été interrompu par Dominique.
On vous embrasse.
Allez.
C'est gentil.
Il avait déclaré... le nucléaire est une filière d'avenir et François Hollande a annoncé et confirmé la fermeture de la centrale de Fessenheim. Alors, monsieur Montebourg...
Oui.
Hein?
Oui. Oui, oui, passez pour un con. Pour moi, c'est une filière d'avenir. Bonjour à vous, dame Julie, de la blondeur hollywoodienne ammoniaquée.
Oui, c'est un peu ça, oui.
Je salue Sire Toussaint du pot de Nutella familial englouti.
On n'aura plus pour les enfants, dis-donc.
Allez, cessons là, ces palinodies politiciennes. Oui, palinodies, j'aime
Qu'est-ce
à parler le langage de la rue. Je rends donc les armes. J'écoute le prince François Hollande du plan Sauce Retrouvée. Qu'il en soit ainsi. Oui, fermons les centrales nucléaires. On ferme. Fermons aussi les usines de carriole Peugeot. On ferme. Fermons aussi, avant de les ouvrir, les mines de gaz de schiste. On ferme, oui, on ferme, puisqu'usine, mine, et Oh, c'est difficile à dire. Surtout lorsque l'on inverse les syllabes, manufactures sont fermées. Je dois avoir du temps libre pour me consacrer désormais à mon sport de gauche favori. Mon
ah,
sport
c'est quoi,
de gauche, oui. Le polo.
Le polo.
Dame Audrey de la verrière exagérée. Dame Audrey, préparez ma monture et cirez mes bottes. Je pars faire un polo en dos de linant.
Arnaud Montebourg, revenez quand vous voulez. Allez, on a eu assez peu de nouvelles d'elle ces derniers jours. On vient d'apprendre qu'elle a déjeuné avec Pierre Moscovici cette
oui.
semaine. Vous confirmez Ségolène Royal?
Oui, bien sûr. Je ne vois pas pourquoi vous riez, Valérie Darmon. Oui, je confirme, c'est... C'est ma grosse actualité politique. J'ai déjeuné avec Pierre Moscovici. Voilà, c'est tout.
Mais vous pouvez nous en dire plus, c'est Ségolène
oui,
Royal.
Bien sûr, oui, bien sûr, je peux vous en dire plus. J'ai pris un avocat crevette en entrée. J'ai enchaîné avec une saule. Et puis j'ai pris une crème brûlée en dessert.
Ouais, bon.
J'hésitais tout de même, si vous voulez en savoir plus, ouais. avec l'île flottante. Mais j'ai pris crème brûlée au final.
D'accord. Ouais.
C'est ma dernière grande décision politique de la semaine, d'avoir maintenu mon choix sur la crème brûlée. Hein, ça ne s'entend peut-être pas, Mme Julie, mais je crois encore à mon avenir politique.
Ah bon, mais qu'est-ce qui fait que vous y croyez encore, Ségolène Royal, à vous entendre, franchement?
Ce qui fait que j'y crois?
Oui.
Mon exemplarité, Mme Julie. Vous
Oula.
Savez qu'au Parti Socialiste, on parle beaucoup du non-cumul des mandats et je peux vous dire qu'en ce moment, elle est exemplaire, la Ségolène, au niveau du non-cumul des mandats. Hein, au niveau du mandat, je suis light, comme dirait M. Toussaint. Je suis même extra light. Hein, je suis la coca-zéro du mandat politique.
Allez, merci Ségolène Royal. Notre ministre de la Justice, Christiane Taubira, a détaillé hier la nouvelle politique pénale du gouvernement avec une orientation qui crée déjà la polémique, le refus du tout carcéral.
Oh oui. Oh bonjour Juliette, ça va
oui,
Juliette.
Oui, ça va.
Les enfants, ça va Juliette.
Oui.
C'est Julie.
Oh oui, Juliette, Taubira, tu sais, moi j'ai eu mon amnésie. Hein. Bon, alors.
Ça va.
Où en est, alors?
Alors.
Oui.
Oui, Madame Taubira, tout va bien.
Bon, arrête avec ces Madame Taubira, hein. Appelle-moi Tata Christiane, s'il te plaît. Fais-moi plaisir.
Oh, je vais pas oser.
Tenez, regardez ce que je vous ai amené.
Qu'est-ce que vous avez apporté?
Je tiens, ce soir de mon cabas.
Quoi?
Des tartelettes à la rhubarbe. Ah, attention, c'est pas moi qui les ai faites, hein. Je les ai achetées à la boulangerie.
Ah.
Tu t'en
rends
compte, Bruce, avec cette histoire de ministère de la Justice, j'ai même plus le temps de faire des tartes.
Oh.
Et en plus, avec cette présentation de la politique pénale, à bout. Comment suis-je j'ai avec ça à faire, franchement?
Bon, mais justement, expliquez-nous. On va revenir sur votre refus du tout carcéral. Vous voulez plus que les criminels aillent en prison?
Mais non, la prison, c'est pas un endroit sympathique, c'est pas agréable. Hein. Faut pas mettre les gens en prison.
Enfin.
Tout carcéral. Mais vous avez remarqué que dès que quelqu'un commet un crime, on le met en prison.
Mais enfin, c'est normal, non?
Mais détrompe-toi, Juliette. Depuis toujours, la prison existe. Hein, les prisons existent et depuis toujours, il y a des crimes, ça n'a rien changé. Non, moi, je pense qu'il faut créer des punitions plus adaptées. Par exemple,
alors,
vous avez tué 6 personnes. Petite fripouille. Eh bien, je vous condamne à me copier 100 fois. Je ne recommencerai plus. Ça, c'est une punition sévère.
Sévère, hein, drôlement sévère.
Mais juste, oui. Sinon, de quoi d'autre? Toi, tu as volé 16 voitures et écrasé 3 vieilles dames, petite fripouille. Eh bien, je te condamne à regarder l'émission « Vous trouvez ça normal ?» Hein, Bruce? Sur France 2.
Le vendredi, l'émission de Bruce.
Oui, l'émission de Bruce. Vous trouvez ça normal? Et punir de regarder en entier.
Mais enfin.
Vous voir que la petite fripouille sur France 2.
Oui, bien sûr. Le vendredi sur France 2.
Ouais.
Si on doit regarder en entier, tu vas voir que la petite fripouille, elle ne recommencera plus.
Mais enfin, ça va pas, non? Bon, sinon, votre santé, Madame Taubira, ça va mieux? On se souvient qu'au début du mois, à Bordeaux, vous aviez perdu connaissance. Les médecins avaient diagnostiqué un ictus amnésique. Une perte de mémoire subite, brève et transitoire.
Attends, excuse-moi de m'insérer.
Vas-y, Jean-Louis, tu veux parler, Jean-Louis, tu parles.
Non, parce que je... ictus amnésique,
oui,
vous dites.
Oui.
Je viens enfin de mettre un nom sur le mal qui me ronge depuis des années.
Mais qu'est-ce que vous racontez, Jean-Louis Borloo?
Je peux vous dire que chaque fois que je vais à Bordeaux, je finis par m'effondrer. Quand je me réveille, je ne me rappelle plus de rien. Je suis victime, en fait, d'ictus amnésique chronique.
À dire que
je croyais que j'étais victime d'autre chose. Ah non, pas du tout.
Jean-Louis Borloo, à bientôt.
Ouais.
Natacha Polony, ici présente, a rejoint, vous le savez, l'équipe de la matinale d'Europe 1. On la connaît pas très bien, alors il a décidé de nous la présenter. C'est Frédéric Taddeï qui va faire votre portrait, Natacha.
Oui, bienvenue dans Ce soir ou jamais. Aujourd'hui, je reçois Natacha Polony. Natacha Polony, bonjour.
Bonjour.
Natacha Polony, vous avez 37 ans, vous êtes journaliste, essayiste. Depuis la rentrée, vous menez la revue de presse sur Europe 1, vous êtes donc meneuse de revue. Ce qui explique vos cheveux rouges et cette tenue dénudée que vous portez chaque matin, ainsi que les plumes. Et oui, c'est de la radio, c'est dommage que vous ne voyez pas. Natacha Polony, vous avez une carrière irréprochable, excepté ce procès en 2009,
hein,
où vous êtes condamnée pour plagiat.
C'est quoi, c'est
plagiat de la coupe de cheveux de la chanteuse Jeanne Masse.
Merci.
On avait dit pas les cheveux. Je crois qu'il y avait une. Non, il y avait
je crois que j'avais une exclusivité sur les cheveux, surtout.
Il y avait un moratoire sur les blagues sur les cheveux.
Bienvenue au club, Natacha.
Oui, oui, je compatis maintenant.
Et c'est parce qu'on le vaut bien, tout simplement.
Exactement.
Bravo, et merci à Nicolas Cantelou. Ah oui, elle était bien la vanne, pardon, je l'ai pas. Bien, pardon, Julie. Pardon, Juliette. Bonjour Jean-Marc Morandini.
Bonjour Bruce.
Comment ça va?
Avec mes vannes de Juliette.
Christiane. Ah oui, Christiane. Tata Christiane, faut que je dise, c'est vrai.
Jean-Marc.
Bon, on va se retrouver dans un instant avec Michel Boyon qui sera notre invité, le président du CSA qui parle pour la première fois depuis l'attribution de Direct 8 à Canal+. Il a choisi Europe 1 pour s'exprimer et répondre en direct à notre question. Témoignage exclusif également ce matin puisque pour la première fois, l'ami intime de Jean-Luc Delarue parle. Il s'appelle Franck Sora, il est producteur, ils se connaissent depuis des années. C'est l'un des rares amis de Jean-Luc Delarue. Il a décidé de sortir de son silence face à cette guerre médiatique que se livrent le père de Jean-Luc Delarue et la femme de Jean-Luc Delarue. Il s'exprime dans moins de 3 minutes en exclusivité en direct sur Europe 1. Et puis enfin, nous reviendrons sur cette information Europe 1. C'est Valérie Trierweiler qui négocie avec Canal+, un magazine culturel. On y reviendra également dans cette émission média.
Merci Jean-Marc. On vous retrouve évidemment dans quelques instants, juste après effectivement le journal de 9h avec Michel Grossior. C'est juste après cette petite pause, à tout de suite.
8h57.
Vos rendez-vous ce matin donc sur Europe 1, vous l'avez entendu à l'instant, Jean-Marc Morandini, c'est un événement, on reçoit le patron du CSA, Michel Boyon, ce sera juste après le journal de 9h. Et à 10h, Julie, faites entrer l'invité, Michel Drucker.
Reçoit Philippe Delerme, l'écrivain Philippe Delerme, bien sûr, qui vient de sortir un nouveau livre. Je vais passer pour un vieux con, ça c'est le titre du livre. Autour de la table avec Michel, Camille Combal, Charlotte Gabris, Miguel de Rennes, Jérôme Commandeur.
Merci à vous pour votre fidélité. Et très bonne journée sur Europe 1.
Il est 9h.